Hey, comment ça va? Faut pas que je parle trop fort parce que toute la maison n'est pas levée. 9h28, mon amoureuse est levée. Mon Gabi, un de mes neveux et filleuls adorés qui vient de nous rejoindre, est levé très tôt. Malo est levé, lui il se lève tôt. Le Solal, il fait dodo, c'est normal, le petit dernier. Voilà. Mamie Marie fait dodo ou se repose à mon avis et Hugo qui est le frère d'Hélène nous a rejoint aussi et là un peu de grasse mat, voilà. Donc je parle pas trop fort, ça va vous? Être à la salle de sport, regarder un live de Samuel, c'est une bonne façon de commencer la journée. Dead Unicorn pour Samuel, je sais pas, mais pour le sport ouais, carrément ouais. Très heureux de vous retrouver. La promesse est tenue de la revue de presse tous les matins, voilà. On est c'était une promesse relevé déjà à la fin de la saison, là, mai, avril, mai, juin, quand la commune m'a dit « Dis donc Samuel, le gamer, ça va bien le gaming, mais il s'agirait de pas oublier l'info. » Eh bien, je m'y applique. Et là, depuis les vacances, depuis le début du mois de juillet, tous les jours, du lundi au vendredi, tous les jours, très bonne question de tout petit dame, comment s'est passée cette installation PC, je vous raconte ça dans un instant, tous les jours, du lundi au vendredi, la revue de presse. Même quand il n'y a pas un max de nouvelles actus comme ce matin, c'est vrai, il y a une époque où je me dis, bon, moi, je vais me recoucher. Et ben non. Donc voilà, et demain, il y en aura une aussi. Et puis la semaine prochaine, pareil. Et en août, tous les jours, sauf la semaine où il y aura un peu de questions pour un champion. Mais et à la rentrée, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ce sera pareil. On va essayer de faire ça tous les jours, du lundi au vendredi, sauf vraiment événement exceptionnel. Hey! Et puis j'ai fait une petite sieste ce matin parce que je me suis levé très tôt. Et du coup, j'ai lu les journaux assez vite. Je me suis recouché une demi-heure. Et puis j'ai songé à peut-être un nouveau rendez-vous quotidien à la lumière de nos échanges ces derniers jours. Oui, c'est vrai, j'ai mon OnlyFans aussi. Oui. Moi, je vois que mon OnlyFans a pop dans le chat. Oui, bah, il faut bien manger. Hein. je pose là, Je poste là, mais le lien Onlyfans a beaucoup de succès, même off-stream. Et donc, la revue presse le matin, le gaming le soir, le Samplay saison 3 le dimanche. Et peut-être une autre idée de rendez-vous quotidien. Voilà, je suis en train de. Voilà, parfois, la nuit porte-conseil. Là, c'était la sieste porte-conseil. Peut-être une petite idée, peut-être un rendez-vous. Voilà. Je vous en dirai plus. Ça se tentera, en tout cas. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Un truc. Moi, j'aime bien être là au quotidien. Moi, j'ai toujours aimé plus travailler sur des formats quotidiens que hebdo ou mensuel, plus info quotidienne que mag, par exemple, dans ma carrière d'avant, ma carrière radio et télé. Et donc, c'est pour ça que je songe plutôt à des rendez-vous quotidiens. Là, j'ai une idée là. Qui dit quotidien dit forcément pas une prépa énorme, parce que si t'as une prépa énorme à faire sur un format quotidien, c'est impossible, mais un truc facile à mettre en œuvre qui peut plaire à la commu, qui peut créer du lien, qui peut nous amener à discuter beaucoup dans le chat. Voilà. Et en mélangeant tout ça et avec nos échanges de ces derniers jours, j'ai une petite idée, pas compliquée, toute simple, et qui peut être sympa. Qui peut être sympa. Je vous en parlerai. Qui dit quotidien dit TMC. Pas con, pas con. Merci Maxime de la Vego pour. Merci Maxime de la Vego pour le 11e mois d'abonnement. Tu es le premier à sub ce matin. Le musée, c'était vraiment bien. Ah oui, le musée, c'est vraiment bien, mais ça, carrément, les streams musées, comme le dernier au Louvre, là, avec l'exposition Mamelouk, ça peut pas se faire tous les jours, bien sûr. Je viens de voir ton réel Insta avec le petit qui dit des folies en vocal sur Valo, je bosse dans un lycée, c'est un réel travail à mener à chacun de notre échelle, donc un grand merci, oui. Mes enfants qui me traitent de vieux, j'adore. Et c'est parti pour les subs. Merci Guirec V77 pour le Prime à l'instant. Merci Toxic 93 330. Un petit département, ça non? Pour le Prime. J'espère que c'est ton âge. Ça fait beaucoup quand même. Merci Anto. Question. On a créé un jeu d'ambiance qui est actuellement en financement participatif sur Ulule. Le jeu s'appelle C'est pas moi. Accepterais-tu d'en parler si je t'envoie le lien de la campagne? Bah ouais. En tout, un jeu d'ambiance. Ouais. Alors tu peux pas me coller. Tu peux pas coller de lien dans le chat. C'est pas possible. Mais tu peux m'envoyer un DM sur X par exemple. Et c'est là où je. Ou alors carrément mon mail pro qui est sur X aussi, sur mon compte X, tu vas le trouver. Tu m'envoies le lien, puis j'irai voir. Ouais. Chez Quotidien, Viviane Martel, c'est les grandes vacances. Oh, bah oui, c'est l'été, attends. C'est du taf, hein. Il y a une question qui m'intrigue, dit MMG. Pourquoi certains mettent les codes postaux de leur ville en pseudo? Je sais pas. C'est vrai, c'est une vraie bonne question, on voit souvent ça. Comment allez-vous, bande de beaux gosses? Sondage lancé par les modos, très bonne idée. Tranquille, 36% au top, le S, 29%, on est là, 24%, au calme, 12%. Très bon sondage. Excellent sondage. T'es encore sur X? Ouais, je voulais aller sur Y, Gibrable, et puis ça n'a pas marché. J'ai essayé de nommer ma communauté de X à Y. Elle n'a pas suivi, donc je suis resté sur X du coup. Ouais. Merci en tout, c'est noté. Je vais regarder ça. Pour avoir un pseudo unique, car les prénoms sont déjà pris, répond Sugar Frog. Voilà, on a la réponse à notre question. El Papino del Sur du Sud vient de lâcher un deuxième mois d'abonnement. Merci El Papino. Il y a Marie qui vient de se lever. On l'a vu qu'il était debout depuis un moment, mais qui se lève. Raconte le montage du PC. Ah, je vais vous raconter ça, ouais, je suis trop fier. Alors, est-ce que le PC est un seul morceau? Ouais, super. Alors, donc je vous raconte, on avait une OP avec un PC HP Omen de fou là. Promis comme le PC gaming le plus puissant, le plus costaud jamais construit par Omen. Donc hier, on a fait un unboxing. Sugar Frog pose la question que tout le monde se pose. Est-ce que tu streames dessus là? Non, c'est pas l'OP là, on n'est pas en OP là. C'est juste pour vous raconter parce que j'ai passé un après-midi hier assez studieux. Merci l'Adrien. L'Adrien, je prononce bien. Merci pour le soutien. Non, non, mais non, ne faites pas le point d'exclamation Omen. Enfin, si vous voulez. Mais non, ça c'est l'ancien. Et donc, on a fait un unboxing hier, donc de la bête. Et puis, ce que je devais faire aujourd'hui, c'est un stream gaming pour tester la bête. La bête! Voilà. Et donc, j'ai passé l'après-midi hier. Donc, hier matin, j'ai streamé avec vous. Et l'après-midi, j'ai pas quitté cette pièce. Et j'ai sorti le PC. Et Je l'ai mis en route. Alors, je l'ai mis en route, ça veut dire quoi? Bon, bah, ça veut le mettre en route, bien sûr. Ça veut dire. Si, il y avait Windows quand même. Installer OBS, exporter mes scènes, mon profil OBS de l'ancien PC sur un lien type WeTransfer, quoi. Okay. Ensuite, allumer le nouveau PC, donc installer OBS, importer. Finalement, c'est un truc que je ne fais pas souvent, donc ça, c'est peut-être là où j'ai le plus de mal. Importer le profil OBS et les scènes OBS. Ouais, finalement, ça a marché. Ensuite, retélécharger tous les éléments d'habillage, voilà, qu'il fallait mettre de côté également. Donc, le petit fond animé, par exemple, voilà. Les visuels quiz Pokémon de Malo, Brawl Star, alerte d'enfant, donc les retélécharger, enfin, tirer à l'ordinateur où ils sont, quoi. Ensuite, rebrancher la caméra via le boîtier d'acquisition, rebrancher la table de mixage, voilà, avec un PC qui avait moins de ports USB classiques que l'autre. Donc ça c'était bien pratique. Bon, un problème d'un PC portable, c'est que il n'y a pas forcément beaucoup de ports, hein, pour des raisons d'encombrement. Donc là il y a ce qu'il faut, mais pour du stream, du coup, moi j'étais un petit peu court. Donc je manquais un petit peu de ports USB classiques, quoi. Par contre, j'avais deux petits ports USB-C sur le côté qui me semblaient de bonne facture. Et du coup, en prenant le temps et en m'énervant pas, j'ai réussi à brancher la table de mixage en USB-C to USB-C. Alors j'étais en USB-A, USB-C. Non, en USB-C, USB-A. J'avais un port RJ45 directement sur le nouveau PC là. Alors qu'avant, il fallait que je passe par un petit hub là. Donc ça, c'est bien. Donc du coup, en co, je pense que je suis meilleur. Bon, il y avait un port HDMI, bien sûr, pour l'écran, ça n'a pas de souci. Bon, la lime, ok. Là, j'ai un port USB-A classique qui fait quoi du coup? Il m'emmène où lui? Ça, c'est. Ah, bah ça, c'est l'iPad. Parce qu'il fallait que je reconnecte l'iPad via son boîtier d'acquisition, donc ça, d'accord. J'ai un port USB-A classique sur le côté aussi qui est là. Et ça, c'est quoi? Parce que la texture des cordons, je reconnais un petit peu. Toi, tu vas où, toi? Toi, tu vas où? Toi, tu ressembles? Toi, tu vas à un boîtier d'acquis, toi? Il va où, celui-là? Ouais, celui de la caméra. Voilà. Et voilà. Et en fait, tout a marché. Voilà. Après, faut trouver. Dans les scènes OBS, il faut tout bien. Voilà, et en fait, bah voilà. Et donc, donc ça veut dire que l'image, ok. Le son, ok. Les scènes Twitch, ok. Tout ça, je le fais doucement parce que je suis pas ingénieur, quoi. Donc, tout ça, ok. Ensuite, je me suis dit, ok, j'ai un stream gaming pour tester la bête à faire le lendemain. Et on avait décidé ensemble de se lancer sur. De renouer avec l'arc Call of. Voilà. En partant sur Black Ops 6, mode zombie. Enfin, non. Non, pas Black Ops. Si, c'est ça. Et après, un retour sur World at War. Sauf qu'en fait, le jeu n'était pas dans les jeux validés par la marque, ce que je peux comprendre. Black Ops. Enfin, Call of, c'est quand même un jeu de guerre. Et donc, j'ai téléchargé le jeu, qui était bien lourd d'ailleurs, parce que c'était un pack de Call of que j'avais acheté lors du passage à la maison de Gotha. Donc c'est un bon gros pack, quoi. J'avais vraiment, c'était très lourd, donc ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai téléchargé, j'ai lancé, ça tournait impeccable, ok, donc ça roulait, notamment le mode histoire de BO6. Ensuite j'ai téléchargé Valo, obligé, voilà, obligé, parce que Valo il va y en avoir un petit peu, sachant que la marque m'avait dit tu peux lancer Valo par exemple, donc j'ai lancé Valo, j'ai testé Valo, impeccable, hein. Et à la faveur d'un échange que nous avons eu hier lors de la revue de presse, j'ai téléchargé Death Stranding. Le jeu. Je ne sais plus pourquoi on en parlait hier d'ailleurs. À un moment, je ne sais plus pourquoi. Voilà. Et la marque m'a dit, ben, je ne sais pas, tu lances du Valo ou lances du Death Stranding si tu veux, qui est un jeu un peu lourd. Qui est un jeu qui est un peu lourd, je crois. Et ce sera l'occasion de tester le PC, quoi. Parce que Valo, c'était cool, mais Valo, c'est pas un jeu très très lourd, quoi. Et donc, j'ai téléchargé Death Stranding et je l'ai lancé pour voir, et ça marchait. Voilà. Donc, j'ai téléchargé trois jeux, je les ai tous testés et ça fonctionne, quoi. Donc là, vous l'avez compris, je stream. On en a parlé à cause du colis de l'ordi. Mais pourquoi déjà? Ah, le colis, parce qu'il y a l'histoire de livraison. Ah ouais, c'est ça. Jeu effectivement très très gourmand. D'accord, ok. C'est lourd sur le dos, Death Stranding? Ok. Les colis, tout ça. Et donc, voilà. Donc, je stream avec ce PC, puisque à un moment, je me suis dit, ben, je vais, après l'OP, je vais remettre l'ancien PC, puisque tous les réglages sont faits. Ben non. Comme j'ai réglé celui-ci à fond, ben en fait, voilà. Donc, j'ai mes configs habituelles, celles que j'ai à Paris sur sur ma tour, et je l'ai fait en un après-midi. Alors, merci Décadragme, merci pour le 25e mois, merci pour ton message, merci Artemisa, merci pour le 4e mois d'abonnement, merci Coréal, merci pour le 18e mois d'abonnement. Alors, voilà. Je vous avoue que, pour être tout à fait honnête, j'ai quand même, j'ai call Joe à un moment sur le côté importation-exportation, profil et scène OBS. Parce que ça, c'est un truc que tu fais pas souvent. Donc là, j'ai pas les bons réflexes. Et au niveau du format, de ce que j'exportais, de là où ça allait et tout, c'était pas très très clair. C'est des formats auxquels j'ai pas l'habitude. C'est des formats, notamment ça se finit. C'est quoi le truc? Donc, je vais vous dire. Format, notamment OBSAM.json, JSON à la fin. Bon bref, un truc un peu zarbi. Et là, j'ai appelé Joe au monde en disant bah, alors, où est-ce que j'exporte ça, comment je les importe et tout. Voilà. Et à partir de là, c'était tout le reste à rouler, quoi. Notamment pour la gestion des ports, là. Maman, je me dis, ah, putain, j'ai pas les ports qu'il me faut et tout. Voilà. Ça se prononce Jason? JavaScript? JSON? Ouais, je sais pas ce que c'est. Je l'ai fait, quoi. Salut Samu, pourrais-tu faire une dédicace à mon ami? On a un délire, on pourrait te dire ça pour que je clippe le message dédicace à 85% de muscles tel un T-Rex. Ok, dédicace à 85% de muscles tel un T-Rex. Tu es prêt? Les amis, j'ai un message important. Dédicace à 85% de muscles tel un T-Rex. Hop, je pense que tu l'as. Jason? Jason? Ok. The Mouton. Je suis en job d'été, coucou à toi Samuel, si tu te poses la question, je bosse avec eux du caravaning, du Touquet. Si tu viens stream ici, quand sur la plage? J'ai pas prévu de passer au Touquet, mais. JSON, 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 abréviation de JavaScript Object Notation. Ok, je sais pas ce que c'est, mais je l'ai fait. Très fier. Donc voilà, en un après-midi, en 3 heures, on va dire. Salut Coco. T'as des nouvelles si ça bouge côté question pour un champion? Ah, oh, bah ça ne bougera jamais, les amis. Moi, je vous l'ai dit depuis le début. Hein. C'est impossible pour les gens qui ont pris cette décision de revenir en arrière. Ce serait trop se fragiliser malgré la mobilisation. Donc, ils reviendront jamais en arrière. Et le risque, c'est que question pour un champion disparaisse au bout d'1 an, 2 ans ou 3 ans, quoi. Voilà. Donc, c'est pas être pessimiste, c'est être un peu. Voilà. De mon expérience de cet univers. Voilà. Mais voilà, 3-4 heures de boulot hier après-midi, et le résultat est plutôt OK, je suis assez content, merci. Sebi Sebillo pour le 3e mois d'abonnement. Bonjour les Samuelos, salut mon Boulbit. Pouloulou, mais il y a que des informaticiens ici, ouais, les gens sont assez calés ici. En général, quand j'ai des questions à poser sur la question, j'ai des réponses qui sont assez claires. Ouais. Peux-tu faire une dédicace à l'association Renault Sport Île-de-France? C'est une OP ça, Pedro? Il y a Pedro qui essaie de me faire une OP gratuite? Pedro, 94 000. C'est quel département ça? Peux-tu faire une dédicace à l'association Renault Sport Île-de-France? Et c'est une OP ça? C'est une OP gratuite ça? Hein? Créteil représente? Hein? C'est du bénévolat? Ok. Spéciale dédicace à l'association Renault Sport Île-de-France dans ce stream ce matin. Ici, on se nourrit de cartes graphiques et de RAM, dit Nix, carrément. Tu pourrais nous dire les sujets du jour? Scream Killer, oui, dans un instant. Mais là, c'est l'intro. L'intro, elle peut durer entre une demi-heure et 1h15, 1h30. Hein. Là, on est à 20 minutes, on est très en dessous de l'intro, là. Ça se passe comment au niveau sommeil? Ça va, Kitsuchel, ça adore, ça adore, ça adore. Ah oui, c'est pas la cam qui frise, c'est moi parfois. À un moment, je me suis arrêté de lire le chat là pendant 10 secondes et quelqu'un a pensé que ça frisait. Non, c'est moi qui frise, c'est l'âge. C'est moi qui frise. C'est moi qui frise. C'est moi qui frise. Je souhaite une dédicace pour une petite PME du nom de Caisse d'Épargne si tu as l'occasion. Ok? C'est quoi? C'est une start-up? Caisse d'Épargne? Caisse d'Épargne? De rien, Pedro. Once Human. Il y a Nolan qui me demande si je vais essayer Once Human. C'est bien ça, Once Human? Tu fais un peu de sport en ce moment? Ça essaie de courir tous les jours, ouais. Once Human. GG, The Mouton, les gars, j'ai eu ma licence, je rentre en master de psychologie du travail, je suis trop content, ce soir je vais manger du riz. C'est un plat de fête, c'est ça? Bonjour, c'est pour savoir si on va te voir au GP Explorer, demande Death Machine. Ici, on répond aux questions. Non. Once Human. Human. C'est un jeu? Jeu vidéo. À courir avec les bras, j'ai pas retrouvé le niveau pour courir avec les bras, mais. Mais ce sera un plaisir, ouais. C'est pour savoir à quelle heure tu stream dimanche soir. Oh, dimanche soir, on va lancer vers, je sais pas, vers 19h. On va react le stream de Zera, les annonces sur le The Event. Salut, tu fais toujours de la télé, quelle émission? Blob? Oui, toujours. Moins. Moins, mais toujours. Tu aimes les parcs d'attractions? Oh, je fais plus les manèges qui vont vite là, qui font peur là. Je trop vieux pour ces conneries là. Once Human, let's go. Kezako. Jeu de survie gratuit, multijoueur, monde ouvert, post-apocalyptique. Ok, tout ça sent très bon. Troisième personne, ça me dit quelque chose ça. Jeu sorti en 9 juillet 2024, c'est récent. Mélange de mécanique de survie, de pillage et de tir. Ok. Pas mal. Monde ouvert. Donc, pas mal ça. On va aller se voir peut-être le trailer, non? Tu vas te présenter aux prochaines élections? Oui, j'ambitionne de me présenter à la présidence de la République 2027, devenir président. Voilà. Et foutre un tel bordel que je serai viré au bout de 15 jours par le peuple, hein, à coup de fourche. Merci, Lady and Bird. Tu visites un peu la Corse durant les vacances? Ah, je suis un petit peu casanier, moi. Le nouveau Mafia, ça, j'ai pas vu là, le nouveau jeu. Ok, Once Human, vous validez ou pas? Y a 2 ans. Regarde ça. Fais gaffe, il y en a qui ont dit ça, ils sont allés bien plus loin qu'ils le pensaient dans la course à la présidentielle. Ah non, mais moi je vais jusqu'à l'élection, hein, je suis élu. C'est pas la question n'est pas savoir si je me présente, la question c'est qu'est-ce qui se passe après mon élection. Once Human, c'est cool, mais c'est un merdier, me dit Bismatral. Non, mais la question c'est qu'est-ce que je fais quoi une fois que je suis élu. Let's go. Vous êtes prêts pour le trailer de Once Human? Il y a une scène qui m'a interpellé quand même. Quel intérêt de mettre une scène de gastro à ce point, quoi. Merci en tout, c'est vu. Déjà, le jeu semble faire peur, quoi. Avec des gens un peu étranges, pas tibulaires, mais presque. Et là, il y a quand même une scène de gastro. Bon, bah, ça arrive, hein, les problèmes de digestion. Là, c'est trop, moi je dis c'est trop, hein. Je suis pas sûr de faire. Alors qu'un Smecta, ça coûte rien. Oui, merci Nyx. Waouh! Il y a partout, il y en a sur les murs et tout. Oh, non. C'est trop, les gars. Ça fait un peu peur, hein? Merci les Luzarques pour le 11e mois. Merci Lady Enbird pour le 29e mois. Ça me rappelle de mauvaises journées, dit Square Nabe. Hein? Ah merde. Pour revenir sur les actus d'hier, je suis allé voir Les 4 Fantastiques hier soir. On en a parlé hier, mercredi, jour de sortie cinéma, nous dit Sissim. Il était vraiment nul, je m'attendais à rien, j'étais quand même déçu. Ah, pourtant, il y a un article dans l'IB aujourd'hui, ou dans Le Monde, je sais plus, qui disait que c'était OK. Comme quoi, OK. Il faut que tu joues au petit jeu indé Neva et Gris. Ils sont rapides à faire, mais tellement beaux. Allez, allez, allez. Moi, je suis d'humeur trailer. Neva. Il y a 9 mois. Ok.
Peggy 12.
Je crois que ce jeu est Peggy 12. Hein. Je suis pas sûr, on va voir. Mais... Neva, on va aller voir ça. Neva, jeu indé.
Peggy 12.
Magnifique. Donc, superbe jeu, on est d'accord. Neva, ok. Et la même personne me parlait de Gris. Launch trailer, il y a 2 ans. C'est le même studio. Ok, ça se note, ça, gris. Gris. Donc studio espagnol, m'ont dit certains. Voilà, même dev. Je vois des coups de cœur pour Gris là-dedans. Ok, je le note. Ok. 5 heures de gameplay. Ouais, bah ça fait 30 pour moi. Ouais. Ok. Limbo, ça peut être une bonne idée aussi. Gris, ah, si c'est espagnol, c'est Gris. Quelqu'un m'a dit limbo, limbo. C'est pas limbo, c'est pas une danse pour danser avec les stars, ça? Limbo trailer. Let's go. Alors ça, c'est un film, ça. C'est pas ça. Game. Ça doit être ça. 2010. Mais c'est un jeu qui est très ancien comme ça? Là, j'en ai un 2013. Ouais, ça doit être ça. Là, j'ai. Ah, 2018. Limbo Launch Trailer. C'est ça, ok. Let's go. Ok. Ouais. Quelqu'un vient dire un peu glauque, c'est pas un peu glauque, c'est sombre. J'aime bien, moi. Et après, il y a les gens qui disent que le jeu vidéo n'est pas un art. Et on m'a parlé d'Inside aussi. Référence du jeu indé. Dordogne, on a adoré Dordogne ici. Jeu Inside. Ok, let's go. Petit plaisir avant l'actualité. Inside, c'est incroyable. Salut Ganodor. Inside. Magnifique, hein. C'est incroyable. Waouh. Waouh. Bon, comme on va avoir plus de temps pour streamer dans les prochains mois, là, peut-être même les prochaines années, peut-être même les prochaines décennies, merci Deo Coutera pour ce soutien, merci Chocolatine pour ce 7e mois de ce débat relancé sur pain chocolat et chocolatine, merci Luluzar qui est encore là, Diane Bird. On va faire ces jeux-là aussi. Hein. Ça, c'est incroyable. Attendez, on a un retour dans le chat de Max Minister qui nous a parlé de son permis de conduire il y a quelques temps. Ah, Hello Sam, je suis celui qui te demandait des conseils, qui a passé son permis de conduire le mois dernier. Vous vous souvenez ou pas? Aujourd'hui, c'est le premier accident. Aïe! Un camion Ben a fait la corde dans un petit virage à quelques centimètres. C'était accident corporel, plus de peur que de mal, mais il a pris la fuite. Des conseils niveau constat assurance. Constat assurance. Ah merde, faut que tu trouves des témoins, non? T'as pas des témoins de l'accident? Merci Bugatti Chibon pour ce 2e mois. La plaque, ça m'étonnerait que la personne ait le temps de relever la plaque. Les gens te demandent si tu as pris le numéro de plaque. Sugar me dit l'assurance va pas kiffer pour le malus. Prendre en photo la plaque du véhicule est devenu mon réflexe perso. Ouais, mais enfin, t'imagines, le gars, t'es dans ta voiture, t'as un énorme camion qui te fait l'inter, qui te serre, qui te détruit ton truc, tu vois. Le camion a peut-être une inscription. Ah oui, il n'y avait pas une marque, une pub, une entreprise. Parce que le camion, il est forcément marqué aussi. Hein, il a forcément la peinture de ta carrosserie sur lui. Appelle ton assureur pour voir s'ils n'ont pas une assistance juridique qui pourrait te conseiller. Très bon conseil de Marine Tartine. Pas de malus si tu portes plainte pour info, me dit Satoshi. Pas de malus si tu portes plainte. Donc, appelle à l'assurance pour voir si une assistance juridique. Allez peut-être faire une déclaration au commissariat, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas des caméras? J'ai pas eu le réflexe de voir la plaque. Seule personne qui avait, c'était mon père, mais dans la voiture de devant à 100 mètres, la police municipale est arrivée trop tard et n'a rien vu. Est-ce qu'il n'y a pas des caméras dans le quartier? Est-ce que tu n'as pas vu un nom d'entreprise ou autre sur le camion? Allez porter plainte pour l'assurance. Je viens d'avoir mon BTS assurance, très important. Porter plainte contre X pour l'assurance, ça te permettrait peut-être d'échapper au malus. Voilà. Déposition à la gendarmerie, pas de malus puisque pas en tort. Plainte pour délit de fuite. Renseigne-toi. Voilà. Voilà. Portez plainte pour X, en effet, et ils chercheront peut-être même avec les caméras après, en parlant des policiers. Voilà. Merci pour les conseils, c'est cool. J'ai essayé de faire des tours dans le coin en regardant les carrosseries, mais c'était au milieu de nulle part, donc zéro caméra et 136 camions bennes au mètre carré. Waouh. D'accord. Ok. Bon, merci pour les conseils, le chat. Vous régalez. Bon, on espère que ça se passera bien pour toi. Délit de fuite et pas de frites, attention. Oui, le délit de frites, c'est autre chose, c'est quand tu cuis pas assez ou trop les frites, ouais. Un délit de frites, ouais, c'est quand les frites sont toutes molles. Bon, merci d'être aussi nombreux déjà ce matin, alors qu'on n'a pas encore fait l'actu. Ou quand tu cuis les frites au four. Délit de frites passable d'une amende, on rappelle. On rappellera jamais assez, mais double cuisson les frites. C'est les Belges qui font ça notamment. Vas-y, je vais manger des frites à la cantine par votre faute ce midi. Ah, Bugatti, je suis en gendarmerie, il y aura forcément enquête, si investigation négative, caméra voisinage, classement, mais ça n'empêche pas la procédure en assurance. Donc là, la plainte en gendarmerie ou en police, très bonne idée. Et tu seras peut-être bien mieux reçu que tu ne l'imagines. Salut, True Casual. True Casual, bienvenue mon ami. Délit de frites quand tu fais des frites au air fryer. C'est pas bon? C'est pas bon les frites au air fryer? T'as les frites à quelle heure il est? À 10h03 le matin, c'est dur là. Je suis pas frites, moi, je suis pas très team frites, moi. Ouais, on est encore Sierra Leone. Je suis encore tout le mois de juillet, comme tous les ans, au mois de juillet, je suis en Corse. Moi, je suis encore du mois de juillet, moi. Bienvenue, Balaroid. C'est trop sec à l'air fryer? Les frites au air fryer, c'est pas des frites? Les frites à la belge banger. C'est pas le Maroc? Non, on dirait pas que ce soit le Maroc. Non. Moi, je dors sous des lits de frites, me dit Arthur Isio. Sud ou Haute-Corse? Attends, je vais te dire. Tu vois la route? D'un côté, il y a la mer et de l'autre côté, il y a un peu le maquis, là. Bon, tu prends cette route-là. À un moment, sur la droite, tu auras un petit chemin. C'est en face d'un primeur, d'un mec qui vend des primeurs sur la route. Tu vois, c'est comment il s'appelle, Tony ou José, je ne sais plus. Et là, tu as un petit chemin à droite. C'est pas là. Tu continues sur la route. Tu continues, tu fais 2 km à peu près. Là, tu as un autre petit chemin. À gauche, il n'y a pas Tony ou José, je sais plus. Il n'y a pas de primeur. C'est là. Tu tournes à droite. Et attention, tu as un embranchement. Il faut tout de suite prendre à gauche. Tu descends pendant 5-6 km. Et là, tu vas voir une première maison. Très belle. C'est pas là. Tu continues. Là, à un moment, tu vas te perdre, c'est normal. Mais il y a des petits vieux dans le coin qui marchent sans arrêt. Tu leur demandes, tu dis, c'est où la maison de l'autre peigne-cul de Parisien là? C'est un nom de code qu'ils me donnent là-bas. Et ils vont te dire. Ils vont te regarder bizarrement au début. Et puis, ils vont te dire. Il faut juste être patient parce que parfois, ils mettent une demi-heure à répondre. Voilà, je suis là. Comment ça, tu fais partie des petits vieux, ça va pas, non? Oui, c'est la maison avec un toit et une porte, tu peux pas te tromper. On est en train de préparer un arc corse, de streamer corse, là. On va essayer de vous faire un truc, là. Dans les prochaines heures, les prochains jours. Ouais, mesdames et messieurs, ici, ça tease. Ça annonce. Peut-être à tort, d'ailleurs, on ne sait pas. Mais. Voilà, il va peut-être y avoir du stream au Corse. Je regarde les nouvelles d'ailleurs. Peut-être. Avec un câble RJ45 qui va traverser la route. Oh oui, bah oui, si tu roules encore, si tu vois un câble RJ45 qui traverse la route, t'es chez moi. Tu suis le câble et t'es chez moi. Ok, il y a mon grand qui vient de se mettre tout nu là. Okay, heureusement que la caméra n'est pas dans l'autre sens. Oui, on fait un concours de bombes aussi, ouais. Ici, c'est la tradition. MDR, il ne connaît pas les câbles sans fil. De bombes dans la piscine. Hein. Des câbles, les fameux câbles sans fil. Les câbles sans fil. Alors, câbles sans fil. Câbles sans câble. Les câbles sans câble, quoi. Qu'est-ce que tu appelles le câble sans fil? Ah, le câble Bluetooth. Le câble par Wi-Fi, quoi. Oh! Excellent. C'est-à-dire que si tu veux vraiment qu'on stream. Si tu nous invites à streamer en Wi-Fi, là. C'est-à-dire que tu n'es pas tellement exigeant sur la qualité du stream, quoi. Tu veux streamer en Wi-Fi, si? Tu veux streamer avec un truc qui cut de temps en temps, au feeling tu veux avec un débit de caca, là Hein? Non, non, les gars, ici, ça stream en RJ45, quoi. C'est box tout PC, quoi. Bam! Putain, vous êtes où, là? Vous êtes où, les gars? Non, 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 on veut de la stabilité, on veut de la qualité, ici. Ici, on stream du gourmand. On stream du lourd, hein. On n'est pas là avec la 4G, là. Non, non. Bien sûr qu'il y a la fibre en Corse. Vous croyez que c'est quoi ici? C'est quoi ces questions sur la Corse? Là, t'as la fibre en Corse? C'est quoi cette question soupçonneuse là? Il y a l'électricité ici, hein. Il y a l'eau, il y a tout, hein. À l'école d'ingé, à cause de l'accent de mon prof de réseau, j'ai noté 8 fils au lieu de Wi-Fi pendant 2 mois. Ok, d'accord? Non, non, il y a tout ici. Donc ici, on stream avec du câble, ouais. Rien de mieux que le RJ45 ou la fibre. Bah oui, auprès des livres, mais évidemment, évidemment. Est-ce qu'on peut envoyer un max de force, s'il vous plaît, à Nitramov ce matin, je me permets de lire ton message. Merci pour tes lives au quotidien, je suis souvent seul et ils m'aident vraiment à m'évader, à penser à autre chose. Aujourd'hui plus que jamais, car j'ai perdu mon chat, ma seule vraie source de réconfort et de distraction. Même si ce n'est pas le but premier de ton stream, sache que tu apportes beaucoup sans forcément t'en rendre compte. Nitramov, je t'envoie et on t'envoie tous beaucoup de force, voilà. Et pensez pour ton chat et ça va aller, et ça va aller. Voilà, et le chat est avec toi. Merci pour tous les petits cœurs. Bande de beaux gosses. Bon, sur cette belle introduction, vous êtes gentils. Est-ce qu'on se fait un petit sommaire d'actu? Est-ce que je vous dis ce qu'il y a dans la presse ce matin? Il n'y a pas 1 000 trucs, mais il y a des trucs. Enfin, il n'y a pas 1 000 articles, mais il y a des choses importantes. Hop, on débranche l'iPad que je mets en charge le matin, parce que du coup, je consomme un petit peu pour la lecture. Test en direct. Puisque nouvelle config. Alors déjà, ça marche. Gogo, ça m'évitera de mettre BFM. Bon bah oui. Hop. Allez. Ok. Déjà, il le voit. Parfois, il faut être patient. C'est moi qui ai fait ça, les gars. Tout marche, le son marche, l'image marche, la tablette marche. Voilà, un petit setup hier après-midi, tranquille, ou sur un PC sorti de son carton, quoi. Et ouais, c'est moi qui l'ai fait. Avec mes petits doigts. Magie. Je suis fier en vrai. J'ai eu un doute là, un moment. Ça a mis une seconde à venir. Petit PC là. Incroyable celui-là. Et celui-là, bon, l'iPad, c'est pas méchant à faire tourner, mais on fera du Death Stranding. Oh, je vous ai pas dit le Death Stranding, le stream cet après-midi. Hein. Là, on fait une revue de presse ce matin. Je cut vers midi 13h là. Et puis après, la famille fait une journée plage. Parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, je stream toute la journée. Je fais une pause d'une demi-heure pour manger. Et je lance le stream de gaming cet après-midi, quoi. Avec le jeu bien lourd là. Bien sûr qu'on va relancer Subnautica, bien sûr qu'on va relancer Valo, bien sûr qu'on va relancer Call of, bien sûr, tout ça. Mais là, c'est Death Stranding. Un, bah oui, le 2, il n'est pas sorti. C'est un piège. Ouais. Mais bien sûr, GTA aussi. Ça me manque, GTA, le mode histoire. Et RP aussi. Il y a Mister Sal qui m'a proposé de faire un truc, là. Le 2 est sorti ? Merde ! Ah, mais que sur PS5 ? Ah bah oui. Ah oui, bah non, j'ai pas ça, moi. Enfin, si, j'ai ça, mais pas ici. De toute façon, on va faire dans l'ordre. Voilà, donc je stream toute la journée. Je stream de maintenant à 17-18h. 18h, on va dire 18h, parce qu'après, petit running en famille. Ok. Ah, sur PS5, mais pas sur PC, ouais. D'accord. Bon, remarque, j'ai une PS5 à Paris, moi. Ouais. Ouais, ça va streamer toute la journée, ouais. Ok. Alors, de quoi je vais vous parler ce matin ? Bon, désolé, je suis dans le sommaire. Bon, ça commence par du très très lourd et du très touchant, puisqu'on va parler de Gaza. Bon, désolé, là, ça va être dur, ça va être lourd. Mais je suis de ceux qui pensent, qui disent qu'il faut en parler idéalement tous les jours pour ne pas oublier ce qui se passe à Gaza. Et espérer que il va se passer quelque chose. Voilà, la photo, elle est choque. La fin de la une de Libé ce matin. Plus d'une centaine d'ONG dénoncent une famine de masse dans l'enclave, où les morts par malnutrition se multiplient faute d'aide alimentaire bloquée par Israël. Énorme dossier dans Libération, qui estime que c'est l'information la plus importante aujourd'hui. Gaza, une famine qui n'épargne personne. Mercredi, donc hier, 109 ONG ont joint leur voix pour dénoncer la famine de masse qui menace l'enclave palestinienne. Humanitaires et journalistes témoignent de leurs propres difficultés à se nourrir et à leur incapacité à mener à bien leur mission. Gros dossier dans Libé avec des témoignages. Ici, par exemple, un psychologue de Médecins du Monde. Je suppose des journalistes palestiniens aussi, des civils, peut-être des familles. Les photos sont très, très, très dures. Hein, je ne sais pas si vous voyez celle-ci. Là. Voilà. Je pense qu'il y a un édito, sans doute, signé Alexandra Schwarzbrod. Nos retours qu'on lira aussi. Voilà. Vous avez aussi à la tribune d'un écrivain israélien qui reproche à son pays l'abîme moral dans lequel son pays est en train de sombrer, la routine de la mort. Et un éclairage aussi sur ces Israéliens révoltés, salut Pantoufle, ces Israéliens qui manifestent contre ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Voilà. Les Israéliens, ça n'est pas une entité homogène. Hein. Ils ne sont pas tous d'accord entre eux, comme tous les peuples. Et vous avez des Israéliens qui manifestent quasi quotidiennement pour dénoncer ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Voilà. On se penchera sur ce gros dossier. Merci à Libération de nous le proposer ce matin. Donc, le premier dossier, ce sera celui-ci. Le deuxième, on va revenir sur la loi du plomb. Pourquoi ? Parce que bah là aussi, je pense que ce n'est pas un truc qu'il faut lâcher. Il y a la pétition. La pétition, elle a combien ? On va aller voir. C'est la une du Monde. Alors, pétition. Ne pas confondre avec la pétition question pour un champion qui, hélas, n'est pas arrivé au même niveau. Pétition, on a combien là ? La vache ! Attends. Dimanche dernier, on était... on venait de passer le million. On est à 1 863 000. Mais c'est fou. À 500 000, c'était une dinguerie déjà. Hein ? À 500 000, et ça avait des conséquences législatives, avec un débat qui devait s'imposer à l'Assemblée. 1 million, et là, 1 863 000. Ouais. On n'est pas enfilé un petit peu à question pour un champion, là ? Ok. Donc, c'est la une du Monde ce matin. Loi du plomb, l'exécutif à son tour sous pression. Hein, c'est la question. Que va faire l'exécutif ? Vous êtes plusieurs à dire, comme Michel Dia dans le chat à l'instant, que cette parole va être ignorée. Hein. Linacos me rapporte la parole du ministre de l'Agriculture qui viendrait de dire que peu importe le nombre de votants, la loi sera appliquée. Le succès de la pétition contre la loi du plomb qui a recueilli plus de 1,7 million de signatures au moment où l'article part, évidemment, le nombre de signatures continue à évoluer. A pris de court ce succès le gouvernement et le chef de l'État. Cette mobilisation embarrasse l'exécutif pour qui l'adoption de la proposition de loi constituait l'une des réponses à la colère des agriculteurs. Le président de la République est désormais interpellé par des associations et une partie de la gauche qui demande une deuxième délibération. Hein, La présidente du Parlement, Yael Braun-Pivet, a dit non. Il y aura peut-être débat, mais il n'y aura pas de deuxième délibération. Et puis, il y a l'espoir pour les opposants à ce texte du Conseil constitutionnel qui doit se prononcer d'ici au 10 août, d'ici quelques jours, sur la loi, mais avec un risque d'invalidation, nous dit déjà le Monde, d'ores et déjà limité. L'ANSES a par deux reprises listé d'autres solutions que l'emploi d'acétaminpride. Hein, cet insecticide controversé, molécule, est autorisé par le texte. Alors, on lira ce gros dossier dans le Monde sur ce qui pourrait se passer, mais je vous lis dans le chat et vous semblez assez pessimiste sur la suite des événements. Merci Soso Jus de Q12 pour le soutien. Salut, je ne dis pas que la loi du plomb est une bonne chose, mais comment apporter une réponse aux agriculteurs français d'un point de vue économique, me dit quelqu'un dans le chat. Si tu fais des recherches, tu vas voir d'abord que les agriculteurs ne sont pas un. Hein. Les agriculteurs, ça ne veut rien dire. Il y a des agriculteurs. Parmi les plus gros, hein, pour dire les choses, qui soutiennent ce texte, il y a plein d'agriculteurs qui le dénoncent aussi. Donc ce n'est pas une réponse aux agriculteurs français, c'est une réponse à certains agriculteurs français. Et puis dans la presse, ne serait-ce que ce matin, il y a des articles de gens qui disent non, ben, c'est juste qu'une autre agriculture est possible. Voilà, et que ceux qui soutiennent ce texte, c'est pour des questions de rentabilité, de rendement financier, et qu'on peut tout à fait faire autrement, quoi. Donc là, tu peux trouver les articles assez facilement, quoi. Voilà, on lira ce dossier, en tout cas. Après la loi du plomb, ben justement, un dossier dans l'Humanité sur l'élevage intensif. Alors l'humain, il a besoin de connexion. Il a besoin d'être connecté. Il peut pas garder en mémoire le journal, contrairement aux autres. Donc il faut que j'aille le connecter. Bon. Dégoûté pour question pour un champion. Bah ouais, c'est comme ça. Alors je connecte à mon iPhone. On peut être pour l'agriculture française de qualité et saine, et pour manger sainement, en fait, faut arrêter d'opposer les deux, me dit Marine Tartine. Mesdames et messieurs, la plus belle femme du monde est rentrée dans ce studio. Oui. Oh, pourquoi pas, c'est au Padula, ouais. Enfin, ça me fait un gros break. Le problème, c'est qu'après, il y a le footing que j'ai promis. Et donc, qui va arriver assez tôt, vers 18h. Et donc, si je reviens trop tard, comme c'est un... Tu vois. Bah, ça dépend à quelle heure je cut et tout. Bonjour Hélène, bonjour madame. Bonjour la femme IA de Samuel. C'est un peu court, il reste une 45, là, je sais pas commencé. Non, c'est un peu juste. Non, mais pour être tranquille, franchement, c'est un peu juste. Je préfère être cool ce soir. Parce que ça va me stresser de. Non, c'est gentil. Ouais. Merci beaucoup. Non, Hélène voulait que je fasse une grosse pause déj ce midi, mais ça va être compliqué. Ça nous aurait pressé sur la revue de presse et ça m'aurait stressé après pour le stream gaming, parce qu'après, à 18h, il y a le petit running. Voilà. C'est quasiment la seule journée de juillet où il y aura double stream. Bon, là, j'ai privilégié le stream. Voilà. Je pense qu'on a récupéré l'humain. Kiosque. Je suis en train de leur télécharger. Seul sur un plage. Alors, non, l'humain, non, c'est pas possible, on peut pas voir l'humain. Oh, ne dites pas, faut que je monte l'escalier pour choper le wifi quand même. Voilà, l'humain. Lire le numéro. On y est. Hop. Bon, l'humain qui revient dans sa une sur les secrets de la cérémonie historique de Paris 2024. Oui, bon, bah. Bon, voilà, c'est vraiment très intéressant, mais bon, moi, ça ne m'a pas trop hypé. En revanche, ce qui m'a hypé ce matin dans l'humain, c'est. Page 7. L'élevage intensif n'a qu'un but, le profit. Voilà. Hein, pour ceux qui se demandent si une autre agriculture est possible, c'est une réalisatrice qui s'appelle Caroline Dussin. Qui revient sur le déni français concernant les pratiques industrielles en matière agricole. Alors que la pétition contre la loi du plomb avoisine à ce jour les 2 millions de signataires, les débats autour de l'agriculture font rage. Ultrastorm on Twitch, on va mesurer ces mots vis-à-vis des femmes, s'il te plaît. Sinon, on va t'inviter à dégager. On ne parle pas comme ça des gens et des femmes. Voilà, tu as pris un Théo de 600 secondes et tu reviens plus poliment, s'il te plaît. Merci. La prochaine fois, c'est Bandef. Non mais... C'est fou, ça. Voilà. Et la rectrice Caroline Dussin revient sur le déni français concernant les pratiques industrielles. L'élevage intensif en France, ça n'existe pas, déclarait Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, le 22 juillet sur BFM. La journaliste et réalisatrice Caroline Dussin. Je la connais, Caroline Dussin. A enquêté sur les pratiques d'élevage en France, à l'image de celles des autres pays, alors que la population reste dans un déni quasi total. À ce sujet, elle décrypte ce paradoxe dans son livre « Un déni français, enquête sur l'élevage industriel » paru en avril. Voilà. Elle dit que oui, il y a l'élevage intensif en France et oui, on peut faire autrement. Voilà. Anna Vael, humour réussi ou raté, en tout cas, tu passes direct dans le Death Note, toi, mon ami. Alors, où est ma petite page de Death Note? On peut déconner quand même. Hein. On est très tolérant ici, mais il faut pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura sanction, mais c'est vrai qu'il y aura une petite enquête quand même. Hein. Comme sur les poids lourds qui serrent un petit peu à la corde. Je t'écris bien pour bien te retrouver après. Voilà. Pas déconner quand même. Hein? Voilà. Mais je crois que Caroline Dussin, je connais. Je vais vérifier. Caroline Dussin. C'est en deux mots. Je me demande si c'est pas une ancienne consoeur. Ah bah oui. On a travaillé ensemble, Caroline Dussin, et on a travaillé, je crois, ensemble à iTélé. Excellente journaliste. Excellente journaliste. Ah, je ne savais pas qu'elle était venue spécialisée sur les questions agricoles ou animalières. Caroline Dussin, réalisatrice à Nova Productions, son dernier documentaire, L'usine des animaux, était diffusé sur Arte en mars 2023. Ah, elle a travaillé sur le grand remplacement aussi. Non, donc, parce que c'est une journaliste politique à l'origine, c'est pour ça. Très bonne journaliste. Hein. Ça, par contre, ça ne parle pas de son parcours. Pour moi, on a travaillé, c'est une ancienne journaliste de Canal+. Et on a travaillé ensemble à iTélé aussi. Voilà. Nova. Ouais, ouais. Bon, excellent journaliste. Bon, déjà, beaucoup de rigueur. Donc, intéressant. Donc, voilà. Donc, on parlera de ça ce matin. Et puis, c'est à peu près tout. Parce que finalement, dans les autres sujets... Ah non. On reviendra sur Ozzy Osbourne aussi. iTélé appartenait à Canal+. Oh, j'y ai travaillé 9 ans. Donc oui, merci, je crois me rappeler de ça, ouais. Et on parle d'Ozzy Osbourne aussi. On en a parlé grâce à vous hier, hein, le leader de Black Sabbath qui est mort. C'est vous qui me l'avez appris hier. On a pris le temps d'aller chercher un bel article sur Ozzy Osbourne et devinez dans quel journal il y a eh bien, un beau papier sur Ozzy Osbourne. C'est dans Libération, page 22. On lira ça aussi. Ouais, et ça, c'est une actu qu'on a pu traiter dès hier grâce à vous. Ouais, il y a un drama Trump, mais j'attends un petit peu. Je trouve que les articles. Alors, j'ai trouvé plein d'articles sur le drama Trump, Trump Obama, Trump Epstein, là, tout ça. Mais ça arrive, il y a des jours où je ne suis pas hypé par les articles, pas par l'actu, mais par les actus. Ukraine, c'est pareil, ce qui vient de voter en Ukraine, là, avec les freins sur la lutte contre la corruption. Très intéressant aussi, mais je cherche l'article que je n'ai pas trouvé, que je trouverai sans doute demain. Ben, l'article bien clair, bien. Je suis un peu difficile parfois, mais ça, en général, je fais ça, je dis c'est pas grave, on y reviendra demain. Je préfère faire ça plutôt que vous prendre un article qui me semble pas tout à fait carré. C'est page 22, voilà. Métal ardent. Voilà, très belle photo, comme toujours, Libération. Fondateur mythique du Black Sabbath, le chanteur déglingué a dynamité le rock dans les années 70. On se fera un petit extrait, bien sûr. Un journaliste à l'Humanité qui fait un papier sur les élevages intensifs, ça n'est pas du militantisme plus que du journalisme. Alors Vince, la journaliste Caroline Dussin n'est pas une journaliste de l'Humanité. Hein, c'est une journaliste qui a fait un livre dont je viens de vous parler et qui est interrogée par l'Humanité. Donc déjà, il y a un truc dans ta question qui ne va pas. Pourtant, c'est ce que j'ai expliqué assez clairement tout à l'heure. Donc Caroline Dussin, pour le coup, je la connais, ça n'est pas une militante. Après que l'humanité soit pas pour une agriculture productiviste et industrielle, pas une énorme info non plus. Donc on lira ce papier, ça ne me semble pas être du militantisme. Ozzy Osbourne, avant de poursuivre en solo, une carrière de tous les excès, hein, le mangeur de têtes de chauves-souris, jusqu'à devenir une star de la télé-réalité. Il est mort mardi à 76 ans. Voilà, on reviendra là-dessus, ce qui nous permettra d'écouter un petit extrait. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a d'autres actualités autour de Trump, autour de l'Ukraine. Et je les ai vus ce matin. Et parfois, j'hésite de longs moments avant de dire est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas. Et quand j'en parle pas, c'est parce que, non pas l'actualité ne me semble pas importante, mais je ne suis pas totalement satisfait de l'article ou des articles. Et ça, c'est sûrement une actu sur laquelle je vais revenir dans les jours prochains, sans doute dès demain. Voilà. Voilà. Et puis peut-être qu'au hasard des pages, eh bien, on sera amené à évoquer d'autres actualités ce matin. Ouais. Et la Palestine, Zeylo, alors tu es en retard, mais ce sera le premier sujet qu'on va évoquer. Je l'ai évoqué il y a 5 minutes dans cette revue de presse, mais tu viens d'arriver. Voilà. Donc ce sera le premier sujet et il va être très lourd parce que le dossier de Libération a l'air très très fort. Merci Ecléo pour le 8e mois. Le PC marche bien, le PC tourne. J'ai loupé le stream gaming sur l'Omen. Non, c'est cet après-midi. La loi anticorruption en Ukraine, je viens d'en parler, Toto Shoot, effectivement. Ce sera sans doute demain. Bon, on va y aller, vous êtes prêts? Bande de beaux gosses. Ça fait plaisir de revoir Caroline Dussin. Très bonne journaliste. J'ai un go? C'est parti pour la revue de presse? Non, Thaïlande-Cambodge. Je ne sais pas, c'est la même personne qui me parle de la frontière Thaïlande-Cambodge depuis le début du stream. J'ai rien vu, mais j'irai voir. Personne ne parle des mensonges de Trump sur le fait qu'il a fait arrêter Obama. Alors, Trump n'a pas fait arrêter Obama. Ou alors, vraiment, j'ai raté un épisode. Mais effectivement, il y a un truc où Trump accuse Obama de choses délirantes, de complots, etc. Mais les articles ne m'ont pas satisfait ce matin. On en parlera sûrement demain. Ouais. Là, c'est un problème d'article, en fait. Mais à moins d'avoir raté une info, Trump n'a pas fait arrêter Obama. Par contre, il dit des dingueries. Ça, oui. Oui, il a fait un montage vidéo IA. Enfin, il a reposté. Je ne suis pas sûr que Trump soit capable de faire un montage vidéo IA. Ouais. Il a fait une fausse vidéo IA de son arrestation. Ce n'est pas Trump qui fait ça. Je ne pense pas que Trump sache faire une vidéo avec de l'IA. Mais oui, il a relayé une vidéo un peu bizarre. Ouais. Mais ça, je pense que je vous trouverai un bel article demain. Ça, c'est sûr. On y va? Go pour la revue de presse? On part sur le Proche-Orient? Ok. Trump qui ment, mais impossible! J'adore. Et il a dit surtout aux républicains de parler d'Obama dès qu'il y aurait une question sur Epstein. Exactement, ouais. Bon, je vous la fais courte pour ceux qui... Mais on va y revenir dans les prochains jours. Trump est très embêté par l'affaire Epstein. Oh, il y a Solal qui arrive. Solal, Solal. Mais attends, mais t'es allé à la piscine?
Oui, mais
dès le matin comme ça. Pas de petit-déj, la piscine directe. T'as tout froid? T'es tout chaud? Ça va? Tu veux dire bonjour? Attends, mets un casque, j'entends pas ce que tu dis. Attends, faut que tu me racontes la piscine. Solal, 5 ans, nous raconte la piscine, ça va nous changer un petit peu. De drame du monde. Ça va mon bébé?
Oui.
Alors raconte-moi, t'as fait la piscine dès le matin comme ça?
Tonton Hugo, il m'a lancé très haut. Et moi, j'ai fait une bombe et un plat sur le dos en même temps.
T'as fait une...
Tu peux voir sur mon dos.
T'as fait une bombe plat sur le dos?
Mais est-ce que tu veux voir sur mon dos?
Fais voir ton dos? Mais... mais t'es tout rouge! Fais attention, mon cœur, hein! Fais attention, mon petit cascadeur! T'as un peu mal? Un petit peu, là, j'ai l'impression, non? T'as pas mal?
Mais ça me gratte.
Ah bah... mon petit cœur! Tu sais, faut faire attention aux plats, hein? Bon, il fait des plats, il aime faire des plats. Mais tu sais, quand on te lance en l'air et que tu fais un plat, ça fait encore plus mal. Hein. Fais attention à toi. Hein. T'es un cascadeur, toi. Hein. Bon, t'es content?
Oui.
T'es content? Bon, et dis bien à tonton Hugo de te lancer dans la piscine, hein, pas à côté. Ça, c'est important. Hein. Et là, tu vas prendre un petit déj?
Oui.
Tu vas manger quoi?
Mais tu peux faire un quiz.
Bah oui, si tu prépares un petit quiz, il y aura un petit quiz, bien sûr. Bien sûr.
Brawl Star.
Un petit quiz Brawl Star? Mais pas de problème, mon cœur, tu viens quand tu veux. Prends ton temps, prends ton petit déj, c'est cool. Hein? Et attention avec les plats sur le dos. Hein. Tu dis bonjour à tout le monde?
Bonjour tout le monde.
T'es trop gentil, toi. Allez, va prendre ton petit-déj. Je t'enlève ça. Fais-moi un bisou. Tiens, prends pas froid. Je t'aime. Prends pas froid. Tiens, mets ça. Tu veux fermer la porte? Tu fais attention au câble? Le fameux J45. Solal, c'est lui qui fait le plus attention au câble. Il regarde le câble, comme si c'était un truc en diamant. Il le serre au millimètre, il est incroyable. 5 ans, mesdames et messieurs. Merci Ashi Yamae pour le soutien. On y va, on part sur le Proche-Orient. C'est un sujet sensible. Oui, on parlait de Trump. Ah oui, Trump, c'est simple. Trump, il a fait, pendant sa campagne présidentielle, il a notamment dit, il parle de l'État profond, il dit que l'État, que l'administration ment aux Américains, qu'on cache des choses. Notamment, il a vachement ambiancé sa commu, ses électeurs, MAGA, tout ça, Make America Great Again, avec l'affaire Epstein. Le mec, il s'est suicidé, là, en prison, les jeunes femmes, etc. Il a dit, on vous cache la vérité et tout. Donc, il arrive au pouvoir. Et puis à un moment, je sais pas, dans son gouvernement, il y a le secrétaire d'État qui dit « Ouais, alors j'ai le dossier sur Epstein, on va tout sortir et tout. » Puis finalement, ils sortent le truc et puis ils disent bah, « Il n'y a rien. » Il n'y a rien en fait. Non, mais il n'y a pas. Non, il s'est vraiment suicidé. Et puis il n'y a rien dans la liste en fait. Et là, les électeurs de Trump, ils disent bah, « Non, mais tu nous avais dit par rapport à l'état profond, tout ça, on nous ment. » Et donc en fait, il y a une petite rébellion d'une partie de l'électorat Trump. Non, mais tu t'es foutu de notre gueule, en fait. Et du coup, il essaie de faire diversion, et notamment avec l'affaire Obama. Voilà, et donc, il sort plein de trucs en ce moment, et notamment un truc comme quoi Obama aurait fait un complot, je ne sais pas quoi. Voilà. Et donc, il aurait même conseillé à ses partisans, aux élus républicains, etc. Alors, si on vous interroge sur Epstein, vous dites que Obama est un voyou. Ne me demandez pas le rapport, il n'y en a aucun. Mais Defecator a raison, il l'a dit à ses élus LR. Ouais. Voilà. Donc c'est ça l'histoire. Je cherche le bel article. D'après le Wall Street Journal hier, me dit Defecator à nouveau, la secrétaire d'État à la justice, dont je parlais un instant, lui a annoncé en mai que son nom figurait dans le dossier Epstein, et ce qui serait la raison pour laquelle ils n'ont rien publié. Oui, ça n'est pas impossible. Oui, parce qu'il était très proche de Epstein, effectivement. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il a fait des trucs illégaux, mais ils étaient proches, ouais. Il y a plein de photos, on les voit tous les deux, bras dessus, bras dessous, tout ça. Et voilà, donc c'est ça l'histoire. Voilà, il y a des articles aujourd'hui, mais j'attends l'article qui va nous raconter ça de façon très, très claire. Est-ce qu'Obama a réagi? Oui. Alors pas lui en personne, mais l'organisation qu'il représente, oui, en disant, écoutez, le communiqué d'ailleurs est très drôle. C'est en mode, bon, on n'a pas l'habitude ici de commenter toutes les élucubrations qui sortent de la bouche de l'actuel président. Hein. Genre ça prendrait trop de temps, trop d'énergie, on n'a pas que ça à foutre. Mais là par contre il faut qu'on réagisse, et en fait ils disent non, monsieur Obama n'a pas fait un complot pour de coup d'état, je crois, hein. Un truc comme ça, ouais. je vais vous en parler, ouais. Voilà, vous inquiétez pas, je vais vous en parler, ouais. Ici il n'y a pas d'état profond, on vous dit tout. Je vois que ça vous hype un petit peu, ouais. Voilà. Mais moi, je préfère vous parler de ça ce matin. Et sur ce sujet sensible et ce sujet brûlant, j'en fais appel à votre intelligence dans vos échanges dans le chat. Vous ne serez pas forcément d'accord sur ce qui se passe là-bas. Mais je vous demande un peu de retenue et d'effort pour que ce chat reste un endroit où on puisse se parler et pas s'insulter. Hein. Gaza, la fin. Ce n'est pas le premier papier que nous lirons sur la famine dans la bande de Gaza, sur ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Nous en avons lu des dizaines et des dizaines et des dizaines depuis des mois, et on va continuer à le faire idéalement tous les jours. Gaza, la fin, c'est la une de Libé. Plus d'une centaine d'ONG dénoncent une famine de masse dans l'enclave, famine de masse. Dans l'enclave où les morts par malnutrition se multiplient faute d'aide alimentaire bloquée par Israël. L'aide humanitaire, elle est là, c'est juste qu'elle ne peut pas accéder aux Palestiniens. Gaza, une famine qui n'épargne personne. Mercredi, hier, 109 ONG ont joint leur voix pour dénoncer la famine de masse qui menace l'enclave palestinienne. Humanitaires et journalistes témoignent de leurs propres difficultés à se nourrir et à leur incapacité de amener à bien leur mission. On a déjà parlé des journalistes de l'AFP. Enfin, les journalistes, c'est des freelances, mais qui travaillent pour l'AFP. Il y a un ou deux jours, on va parler des journalistes, mais surtout de la population civile palestinienne. C'est un prothésiste, une prothésiste palestinienne qui parle. Elle s'appelle Eba Bachir, elle travaille pour l'ONG Handicap International dans le centre de la bande de Gaza. Tous les jours, dit-elle, elle se réveille avec une obsession, cette prothésiste, trouver à manger et à boire pour ses deux filles, âgées de 2 et 7 ans. Mais dans l'enfer de l'enclave palestinienne, ravagée par les bombes israéliennes et la crise humanitaire, la mission relève presque de l'impossible. Je souffre de voir mes filles pleurer de faim chaque matin et chaque soir lorsqu'elles s'endorment, soupire. Eh bah, ben, Bachir, c'est la réalité de chaque famille ici. Selon les données publiées par les Nations Unies, par l'ONU, l'ensemble de la population gazaouie est confrontée à une situation d'insécurité alimentaire aiguë. L'ensemble de la population de Gaza est confrontée à une situation d'insécurité alimentaire aiguë. L'ensemble. À l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de l'enclave, 21 enfants sont morts de malnutrition en 3 jours. Face à l'ampleur du désastre provoqué par les restrictions sévères imposées par Israël en matière d'entrée de l'aide humanitaire, 109 ONG ont alerté dans un communiqué publié hier sur la propagation d'une famine de masse dans la bande de Gaza. Nous voyons la santé de nos collègues se détériorer sous nos yeux, les stocks étant complètement épuisés, déplorent les signataires parmi lesquels se retrouvent, puisqu'on parle d'ONG, Médecins sans frontières, Médecins du Monde ou encore Action contre la faim. Soumise pendant 2 mois sur ordre de qui? Du gouvernement de Benjamin Netanyahou. À un blocus total, l'aide alimentaire a recommencé à entrer dans la bande de Gaza fin mai. Mais dans des quantités extrêmement limitées, au regard des besoins immenses de la population, surtout le nouveau système d'aide mis en place par Israël, dont on a beaucoup parlé déjà ici, hein, est bâti autour de la Gaza Humanitarian Foundation, société privée qui a concentré les distributions sur 4 sites militarisés avérés au massacre, avec plein de morts palestiniens, de gens qui venaient chercher à manger. En l'espace de 2 mois, au moins 1 millier de Palestiniens ont péri, victimes de frappes israéliennes ou de bousculades, alors qu'ils tentaient d'atteindre les points d'aide. Je vous lis, parfois j'ai envie de réagir à un commentaire, mais après ça nous fait perdre un petit peu le fil, quoi. Je viens de lire par exemple cette famine à cause du Hamas. Non. Les attentats monstrueux et meurtriers du Hamas à cause du Hamas. La famine de la population palestinienne à cause du gouvernement israélien. Faut pas tout mélanger. Voilà. En l'espace de 2 mois, au moins 1 millier de Palestiniens ont péri, victimes de frappes israéliennes, de bousculades, alors qu'ils tentaient d'atteindre les points d'aide. Au total, plus de 59 000 Palestiniens ont été tués par Tsahal depuis le début de la guerre en octobre 2023, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas à Gaza, jugés fiables par l'ONU. Selon le PAM, le Programme alimentaire mondial, les conditions de distribution actuelles rendent toute opération humanitaire impossible. L'utilisation de la famine comme arme de guerre contre les civils constitue un crime de guerre, dénonce l'ONU. Là, on a quelqu'un de Médecins du Monde qui parle, qui est sur place à Ramallah. La majorité de notre personnel mange seulement une fois par jour. Pour certains, c'est une fois tous les 3 jours. C'est le niveau de famine le plus grave que nous avons atteint depuis le début de la guerre, dit le coordinateur de Médecins du Monde pour la Palestine. Les membres de notre personnel sont épuisés. Ils ne sont plus capables de continuer dans ces conditions. Il y a 2 semaines, une femme s'est évanouie dans nos locaux de la ville de Gaza. Un autre travailleur humanitaire lui a confié qu'il ne buvait que de l'eau salée depuis 3 mois. C'est que l'eau potable manque, elle aussi, en raison de la pénurie de carburant qui affecte le fonctionnement des infrastructures d'approvisionnement. Dans ces conditions, les humanitaires qui s'efforcent de venir en aide aux civils sont souvent soumis à des choix impossibles. Chaque jour, ils doivent évaluer s'ils doivent aller travailler ou non, pour leur propre sécurité et celle de leur famille. En sachant que s'ils n'y vont pas, ils abandonnent des personnes qui ont besoin de leur aide. La situation est la même pour les rares journalistes, encore présents dans la bande de Gaza, dont Israël a interdit l'accès à la presse étrangère. Vous savez que les journalistes étrangers n'ont pas accès à la bande de Gaza, hein. Lundi, la société de journalistes, la SDJ de l'agence France Presse, dont on a déjà parlé, l'AFP, qui travaille encore avec 10 collaborateurs sur place, a lancé l'alerte « Les derniers reporters de Gaza vont mourir ». Le message est sans équivoque. Ceux qui peuvent encore raconter au monde l'horreur de la guerre risquent de disparaître à leur tour, comme plus de 200 journalistes palestiniens tués par des frappes depuis le début de la guerre. Je n'ai plus la force de travailler pour les médias. Mon corps est maigre, je ne peux plus travailler, témoigne sur les réseaux sociaux Bachar, photojournaliste pour l'AFP. Depuis que l'AFP, l'agence France-Presse, a été fondée en août 1944, nous avons perdu des journalistes dans des conflits. Nous avons eu des blessés et des prisonniers dans nos rangs. Mais aucun de nous n'a le souvenir d'avoir vu un collaborateur mourir de faim, s'indigne la SDJ de l'AFP. Lundi, l'OMS a dénoncé des attaques israéliennes contre plusieurs de ses locaux dans le secteur de Deir el-Abba. L'armée israélienne n'est pas seulement en guerre contre les Palestiniens, mais aussi contre les organisations internationales, accuse Médecins du Monde. Juste à l'extérieur de Gaza, dans des entrepôts et même à l'intérieur, des tonnes de nourriture, eau potable, fournitures médicales, matériel d'hébergement, carburant restent inutilisés, rappellent les 109 ONG dans un communiqué. Mais le passage de l'aide est soumis à autorisation israélienne. Les signataires regrettent d'être empêchés d'accéder à la bande de Gaza. La distribution des denrées relevant quasi exclusivement de cette GHF dont je vous parlais tout à l'heure, accusée par les ONG d'être un instrument des politiques militaires de Benjamin Netanyahou. Mercredi, le président israélien, Isaac Herzog, qui n'a pas les mêmes pouvoirs que le président de la République en France, par exemple, hein, c'est un titre honorifico/politico, s'est rendu dans la bande de Gaza pour se défendre des critiques internationales. Nous fournissons une aide humanitaire conformément au droit international, a-t-il martelé contre toutes les évidences factuelles. Ceux qui tentent de saboter cette aide sont le Hamas et ses partisans. Tiens, on retrouve l'argument la famine, c'est à cause du Hamas qu'on a lu tout à l'heure dans le chat. À New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé un niveau de mort et de destruction sans équivalent dans l'histoire récente, avec une explosion de la malnutrition et de la famine qui frappe à toutes les portes. La France a condamné le lendemain la nouvelle offensive israélienne dans la zone de Deir el-Abba, qui accélère la dégradation de la situation humanitaire. Mais les 27, donc les Européens, ont renoncé la semaine dernière à suspendre le traité d'association entre l'Union européenne et Israël, comme le réclamaient des ONG, pour mettre la pression sur l'État hébreu. Pour l'heure, les Occidentaux misent toujours sur la voie diplomatique. L'émissaire spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, est attendu cette semaine en Europe. Il devrait se rendre ensuite au Moyen-Orient dans l'objectif, selon Washington, d'obtenir un couloir humanitaire pour l'acheminement de l'aide et de parvenir à un nouveau cessez-le-feu qui mettrait fin à la campagne militaire israélienne que les principales ONG qualifient de génocide. Je vais arrêter de lire le chat parce que je n'ai pas de patience avec les idiots, me dit MX. Moi, je laisse des gens qui ne sont pas d'accord entre eux discuter dans ce chat, dans certaines conditions quand même de tenue. Voilà. Parce que parfois, il est aussi intéressant de voir comment certains sont mal informés, désinformés, aveuglés par leurs convictions. Voilà. Et en soi, c'est une information. Hein. Se retrouver entre nous, entre gens qui pensons la même chose, à nous gargariser, à nous féliciter toute la journée, de la justesse de notre pensée en disant « Vous avez vu, nous on a raison, les autres ont tort. » D'ailleurs, les autres ont tellement tort que quand ils viennent s'exprimer dans notre chat, on les vire, on leur demande d'aller voir ailleurs parce qu'on ne veut être qu'entre personnes qui pensons la même chose. Ça, je ne veux pas ça. Je n'aime pas ça, je ne supporte pas ça. Hein. S'enfermer dans des bulles informatives, s'enfermer dans des bulles de pensée, dans des bulles de valeur, en se disant « Nous avons réfléchi, nous avons lu, nous avons raison. » Et les autres, vous êtes des débiles et on ne veut même pas parler avec vous, on ne veut même pas vous entendre, on ne veut même pas vous écouter. Ça, non, en fait. Ça, voilà. Il faut pouvoir entendre l'altérité, même si elle nous irrite, même si elle nous met en colère, quoi. Je le supporte tous les matins, vous pouvez le supporter, hein. Mercredi, la défense civile de Gaza a fait état de 17 nouveaux décès de Palestiniens tués par des frappes israéliennes en divers endroits de l'enclave. Là, on a le témoignage d'une, d'une Palestinienne, je pense, qui s'appelle Nour Jarada, qui est psychologue de Médecins du Monde. Enfin, je pense palestinienne, on va voir. Oui, la photo, est la photo, elle est folle. Ouais. C'est une Palestinienne de 30 ans avec Yazan, son fils de 2 ans, dans le camp des réfugiés d'Al-Shati, dans la ville de Gaza. C'est un enfant de 2 ans. Donc, Nour Jarada, psychologue de Médecins du Monde, raconte son quotidien à Gaza où elle vit depuis toujours. Donc, c'est une Palestinienne. Elle endosse un inconcevable triple rôle. Elle est victime, mais elle est aussi soignante et elle est témoin. Ce sont toujours les mêmes questions que m'on pose. Les journalistes, mes amis, mes collègues, les inconnus sur Internet, derrière leur écran, comment tu fais pour continuer? Comment peux-tu encore aider les autres alors que toi-même tu souffres? T'es-tu déjà effondré? Vas-tu encore tenir? Parfois, je me pose aussi ces questions, dit-elle. Depuis plus de 21 mois, je vis une guerre ininterrompue. Je suis une professionnelle de la santé mentale, mais ici, ce titre ne suffit pas. À Gaza, on ne peut pas être une seule chose. Je suis thérapeute, mais je suis aussi une femme qui pleure ses morts, une mère qui tente de protéger ses enfants, une fille qui a perdu des êtres chers, une psychologue accablée par la guerre, une âme brisée qui porte la douleur des autres, une témoin d'horreur qu'aucun mot ne saurait décrire. Macad, à propos de tout ce qu'on est en train de lire, parle de bourrage de crâne. Merci Souriteka. Et comme dit Sarah, modératrice de cette chaîne, arrêtez de vous insulter ou je vous marave tous. Une psychologue accablée par la guerre, une âme brisée qui porte la douleur des autres, une témoin d'horreur qu'aucun mot ne saurait décrire, une soignante qui saigne, je suis tout cela à la fois, sans jamais pouvoir séparer les rôles. Je soigne, je m'effondre, je soutiens, je me brise. Dès les premières bombes, ma vie s'est fracturée. Je tente d'apaiser un peuple broyé par le traumatisme, même si je pleure mes proches, même si je dois me relever après chaque nouvelle frappe. Je préserve ma voix pour témoigner, même quand la peur m'étrangle. Ce soir, en écrivant ces mots, je traverse l'une des nuits les plus noires de cette guerre. Je n'ai pas honte de l'écrire, j'ai faim. Et cette faim n'est pas un hasard, elle est orchestrée, fruit d'un blocus et d'une politique, d'une volonté de nous écraser. Mais la honte n'est pas la mienne. Elle appartient au monde qui proclame les droits humains alors que Gaza est bombardée, affamée, réduite au silence. Pour ceux qui mettent dans le chat, qui mettent en question la véracité de ces témoignages, on ira lire on ira entendre des Israéliens qui, en Israël, dénoncent également ce qui se passe dans la bande de Gaza tout à l'heure. Et je vous laisserai affirmer aussi que ces Israéliens se trompent. Je vous laisserai affirmer que ces Israéliens mentent. Je vous laisserai aller en Israël expliquer à ces Israéliens qui sont contre la guerre qu'ils inventent. Le niveau du. Mais il y a des. Y a des. C'est même pas un niveau d'enfant de maternelle. Quelqu'un dans le chat vient d'écrire, mais qui te dit qu'ils ne sont pas payés? Mais ce n'est même pas un niveau enfantin. Pardon, mais là, les. Il y a des mots qui veulent sortir de ma bouche que je ne vais pas dire parce que ma chaîne va être supprimée, quoi. Oui, ravagé, c'est le mot, oui. Il y en a, vous êtes ravagé, hein. On n'est pas sur Twitter, les gars, hein. Je m'arrête à ravager, mais c'est d'autres mots qui ont envie de sortir. Qui te dit que ces Israéliens qui manifestent contre la guerre à Gaza ne sont pas payés? Vous arrivez à prendre vos doigts pour écrire des choses comme ça? C'est fou. Allez. Que suis-je à présent? Suis-je encore une thérapeute ou suis-je devenue une victime? S'interroge cette psychologue de Médecins du Monde. Une déplacée? Suis-je plutôt une enfant en deuil? Ou une mère terrifiée, ou peut-être une humanitaire qui s'approche de toutes ses forces à l'espoir. Depuis que nous travaillons dans les camps de déplacés, nous n'avons jamais exercé dans des conditions normales. Les hôpitaux sont bombardés, les soignants tués ou arrêtés, les cliniques vidées, les routes coupées. Et pourtant, nous avançons, pas seulement par devoir professionnel, mais par humanité. Chaque matin, nous embrassons nos enfants, le cœur tremblant, terrifiés que ce soit la dernière fois. Puis le jour se lève, nos séances ont lieu dans des tentes, dans un recoin, sous un abri, au milieu des ruines. L'image que j'avais de moi-même s'est brisée, nos vies se sont effondrées. J'ai perdu toute notion de normalité, j'ai appris à marcher en pleurant, à ensevelir les morts dans un coin de mon cœur pour continuer à aider les vivants. J'ai appris à fuir la mort, à porter l'angoisse comme un funeste fardeau depuis 21 mois sans répit. Je ne cesse de prier pour ceux que les décombres ont engloutis, mais j'ai aussi découvert une force insoupçonnée. Est-ce par faute de choix, peut-être, mais c'est surtout la foi en Dieu et la dignité de mon peuple qui me porte à travers l'indicible. J'ai appris à survivre sur une terre devenue hostile à la vie, à économiser l'eau pour plusieurs jours, à vivre sans l'indispensable. J'enseigne à mes enfants la patience quand la faim les creuse. Une amie m'a raconté que son fils, comme tant d'autres, s'était plaint d'avoir faim. Puis en lisant la tristesse dans ses yeux, il s'est excusé. « Pardon, maman, je n'ai pas faim. Ne sois pas triste. » Il cherchait à contenir sa propre souffrance pour la protéger. Vivons-nous dans un monde où un enfant doit s'excuser d'avoir faim? Chaque jour, j'écoute le récit de vie brisée, mais je ne suis pas étrangère à leur histoire. Je vis cette guerre moi aussi. Je souffre des mêmes plaies. Un garçon de 15 ans m'a confié qu'il aurait préféré mourir avec sa famille. Mon cœur s'est brisé avec le sien. Une mère incapable de nourrir ses enfants m'a murmuré « Je n'en peux plus ». En silence, j'ai pensé « Moi non plus ». C'est ça qu'on nomme la fatigue compassionnelle, quand l'infinie succession de souffrances finit par consumer votre âme. Quand on n'a plus rien à offrir, mais qu'on s'acharne malgré tout, elle s'accompagne d'un autre épuisement, celui de travailler au cœur d'un champ de bataille au milieu de ruines, dans des lieux sans ressources et dans un danger de chaque instant. Nous n'exerçons pas dans le calme feutré des cabinets, nous tentons de répandre un peu d'espoir dans des tentes bondées, des écoles éventrées. Ici, les enfants parlent de missiles comme d'autres parlent du petit déjeuner avec cette étrange banalité née des horreurs auxquelles on s'habitue. La même résignation. Et pourtant, au milieu de cet enfer, on exige encore de nous la neutralité. Mais que signifie être neutre face à l'atrocité? Dois-je poser une main sur l'épaule d'un enfant et lui dire « ça ira » alors que je sais qu'il n'oubliera jamais l'odeur du sang? Comment parler de sécurité à ceux qui perçoivent le danger dans chaque bruit et dans chaque ombre? La vérité, c'est que parfois nous ne disons rien. Durant certaines séances, il n'y a que le silence, mais notre présence suffit, être là, témoigner. S'asseoir avec quelqu'un auprès de son chagrin sans chercher à le réparer, cela peut guérir aussi un sourire d'enfant après des jours de larmes, une femme qui enfin se repose après la panique, un vieil homme qui dit merci parce qu'il a été entendu. Ce sont ces instants fragiles mais précieux qui nous permettent de tenir. Nous ne sommes pas seuls dans ce chagrin. Autour de moi, des collègues ont une force qui m'inspire chaque jour une profonde admiration. Chacun porte en lui une tragédie, la mort d'un proche, et pourtant, il continue d'être présent. Un médecin en grand cœur a vu toute sa famille anéantie en une seule frappe. Malgré une douleur qui défie les mots, il a continué à soigner, à tendre la main. Même au cœur de son propre deuil, il nous a soutenus. Il nous a rappelé pourquoi nous tenons encore. Un autre a perdu sa fille, un autre son mari, et nous tous, sans exception, nous avons tout perdu, nos maisons et nos rues, nos souvenirs et les êtres aimés, et pourtant nous répondons présents, harassés, brisés, affamés, mais mus par quelque chose de plus grand que la douleur, un amour profond et inébranlable pour notre peuple. Nous offrons ce qu'il reste de nos cœurs à notre travail. Parfois les circonstances nous forcent à évacuer une clinique, alors la culpabilité nous envahit car nous savons combien les gens comptent sur nous, mais cette culpabilité n'est pas une faiblesse, elle est la mesure de notre dévouement. Cette douleur aussi nous pousse à nous obstiner, ce qui empêche mon cœur de sombrer, c'est notre manière de nous relever ensemble. Dans le chaos, nous persistons à prendre soin les uns des autres. Nous pleurons ensemble, nous partageons notre épuisement et notre douleur, notre vertigineuse impuissance. Pourtant, une faible étincelle jaillit encore, l'espoir. Cela s'arrêtera, disons-nous. Dieu rendra ce qu'on nous a arraché. À ceux que la nuit a engloutis, nous promettons un jour, nous regarderons en arrière et nous dirons, nous avons survécu, nous nous sommes portés. Les yeux de mes compagnons sont drapés du courage endeuillé, nous sommes et restons debout ensemble. Nous nous rappelons que la fin viendra, la justice suivra, notre peuple est digne de vivre. Alors comment continuer? Ou plutôt, comment pourrions-nous abandonner? Céder voudrait dire laisser vaincre l'obscurité. Nous sommes à bout, c'est vrai, mais pas à terre, pas encore. Car Gaza n'est pas qu'un sol jonché de ruines. C'est une terre de braise et de résilience, là où l'humanité s'obstine à briller dans l'obscurité la plus profonde. Nous sommes toujours là, et ensemble nous guérirons. Comme le rappelle le poète Elia Abou, m'a dit, désespérer, c'est trahir. Trahir ceux qui ont vécu et sont morts, en rêvant. Encore d'espoir. Donc c'est Nour Jarada, palestinienne, psychologue pour Médecins du Monde, qui raconte son quotidien à Gaza. Oh, je ne m'attendais pas à un texte aussi fort. Quoi. Parole d'une palestinienne, parole maintenant d'israéliens. Des israéliens, car ils existent, qui manifestent contre ce qui se passe à Gaza. Les israéliens révoltés butent sur les rêves messianiques du pouvoir. Alors qu'un sursaut agite la population, descendue en nombre dans les rues, protester contre le sort fait à l'enclave palestinienne, sa réoccupation par l'État hébreu n'a jamais été aussi audible au Parlement. Merci Chinipon, merci Souridéka. Il y a quelques mois encore, le décompte de manifestants n'aurait pas dépassé quelques centaines. Mardi soir, plusieurs milliers d'Israéliens ont défilé dans les rues de Tel Aviv pour demander la fin de la guerre à Gaza et de la famine dans l'enclave créée par plusieurs mois de blocus israélien et par le chaos actuel de la très restreinte distribution d'aide alimentaire. Hein, ce ne sont pas des ONG qui dénoncent ici, ce ne sont pas des Palestiniens, ce sont des Israéliens. Pour ceux qui, dans le chat, remettaient en cause la réalité de ce que nous lisions à l'instant. Brandi à bout de bras d'imposants portraits d'enfants palestiniens, considérés morts de faim, voient réveiller des citoyens israéliens vus comme apathiques face à la mort de civils palestiniens. Sur les épaules de certains marcheurs aussi, des sacs de farine, symbole de la hausse du prix des marchés alimentaires à Gaza. Son prix, bon là ça parle du prix de la farine. Le gouvernement israélien a affirmé mercredi qu'il n'y a pas de famine causée par Israël à Gaza et a accusé le Hamas de provoquer une pénurie. Quand dans le chat on voit de loin en loin quelqu'un qui affirme que c'est le Hamas qui est à l'origine de ça, en fait ils reprennent les éléments de langage du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il y a un groupe de plus en plus important d'Israéliens qui choisissent de savoir, d'être conscients de ce qu'il se passe, en s'informant notamment à travers les médias internationaux. C'est Alon Lee Green, président de Standing Together, qui a manifesté mardi, qui le dit. L'ONG rassemble depuis 2015 les communautés arabes et juives du pays pour promouvoir la paix et la fin de l'occupation des territoires palestiniens. Elle accompagne depuis le début de la guerre à Gaza le réveil d'une frange minoritaire, mais grandissante, d'Israéliens opposés à l'action de leur gouvernement et de leur armée en Cisjordanie et à Gaza. Nos pages TikTok et Instagram sont devenues ces derniers mois parmi les plus fréquentées d'Israël. Nous nous positionnons comme alternative au silence des médias locaux sur cette guerre. Pas tous, hein. Un journal comme un quotidien israélien comme Haaretz, par exemple, dénonce ça au quotidien. C'est un des plus grands journaux israéliens, bon, qui est en difficulté financière, comme beaucoup de journaux. Et en plus, qui, si je ne dis pas de bêtises... À des soucis économiques, notamment en termes de publicité. Mais un journal comme Haaretz en parle de ça. Malgré une contestation de plus en plus visible, le gouvernement de Netanyahou refuse tout recul dans l'enclave. La guerre qui mène son armée depuis le 7 octobre 2023 a causé la mort de 59 106 Palestiniens, selon le dernier bilan du ministère de la Santé de Gaza, hein, qui est jugé crédible par l'ONU, je le rappelle, et 456 soldats côté israélien, selon les médias locaux. Le pays s'est défendu à plusieurs reprises d'avoir créé une situation de famine, mais il ne se cache plus de vouloir déplacer la population de Gaza pour y instaurer la Riviera moyen-orientale fantasmée par Trump fin février. Le gouvernement israélien, notamment le ministre israélien de la Défense, notamment Netanyahou, ne cache pas aujourd'hui que leur projet, c'est de déplacer, vous pouvez utiliser un autre mot si vous le souhaitez, la population de Gaza, en dehors de Gaza, vers un pays arabe de la région qui voudrait bien les accepter, parce que, sauf que ce n'est pas trop le cas aujourd'hui, et y installer une petite côte d'Azur, qui était le projet de Trump. Un fantasme devenu très concret dans l'esprit de certains politiques israéliens, les plus à droite, hein, à l'extrême droite, qui ont fait ce projet l'objet d'une conférence même, il y a une conférence là-dessus, intitulée « La Riviera à Gaza, de la vision à la réalité », conférence organisée mardi au Parlement. Il y a une conférence mardi à la Knesset, au Parlement israélien, qui s'est appelée « La Riviera à Gaza, de la vision à la réalité ». C'est officiel. C'est pas les délires de Trump. En fait, le délire de Trump, il a été repris en Israël par les plus extrémistes en disant, bah oui, c'est une super idée. Donc on se moque parfois des prises de position de Trump. Tout le monde s'est moqué de lui en disant, oui, la Riviera, il est vraiment débile, l'autre là. Oui, mais en fait, sauf que sur place, il y a des gens, des Israéliens extrémistes qui ont pris ça, qui ont pris ça au pied de la tête en disant, oui, très bonne idée. C'est conférence au Parlement. Cette réunion publique a recueilli la parole de membres de l'extrême droite gouvernementale, comme Bezalel Smotrich, ministre des Finances, ou encore Daniela Weiss, figure du militantisme pour une colonisation juive à Gaza, de quoi ajouter la colère des manifestants de Tel Aviv. Je pense que la tenue d'une telle réunion, qui prévoit l'occupation permanente de Gaza et l'expulsion de ses habitants palestiniens, nous autorise à dire au public israélien que cela a toujours été leur plan, juge Alon Lee Green de l'ONG qu'on a évoqué tout à l'heure. Les gens qui pensaient que servir militairement à Gaza était voué à assurer la sécurité et la protection d'Israël et ramener nos otages ont été dupés par le gouvernement. Au sein de la Knesset, donc le Parlement, Daniela Weiss a ainsi pu soumettre un plan directeur proposant l'implantation de logements pour 1,2 million de colons juifs, la construction d'infrastructures industrielles, agricoles, touristiques. Ce mercredi, la Knesset votait également une résolution appelant le gouvernement à annexer la Cisjordanie occupée afin de retirer de l'ordre du jour tout projet d'État palestinien. Alors que tous les gens raisonnables savent que le retour à la paix un jour dans la région ne pourra passer que par la reconnaissance d'un État palestinien et la coexistence plus ou moins pacifique de deux États, le projet actuellement d'une partie de la classe politique israélienne, c'est d'enterrer totalement ce projet d'État palestinien. Ben, au moins c'est clair. Merci du reçu pour ce raid. Vous étiez sur quoi ? Alors que la défense civile à Gaza fait état de 17 morts mercredi dans de nouveaux bombardements israéliens sur le territoire palestinien, que l'armée israélienne a dit intensifier ses opérations dans la ville de Gaza et au nord de l'enclave, la possibilité d'une réoccupation israélienne de Gaza, interrompue après 38 ans en 2005, suivie d'une prise de pouvoir du Hamas en 2007, n'a jamais été plus audible sur le territoire. Il y avait une phrase intéressante dans ce papier sur ces Israéliens qui dénoncent ce qui se passe actuellement. Ils sont minoritaires, mais ils sont de plus en plus nombreux. Dofus comme d'hab, merci d'y reçu. On a entendu des manifestants israéliens, on va entendre un écrivain israélien maintenant, qui reproche à son pays l'abîme moral dans lequel il est en train de sombrer. Edgar Keret. En arpentant les rues de Tel Aviv, dit-il, j'observe les gens pressés, le visage inquiet. Il est facile d'oublier que nous sommes un pays en guerre. Les avions de chasse qui nous survolent nous le rappellent de temps à autre, mais nous sommes généralement préoccupés par autre chose. Un jour, Trump lance une prédiction optimiste sur un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Le lendemain, il se souvient de la guerre en Ukraine. Ici, en Israël, notre attention zigzague entre un sondage montrant que plus de 80% des Israéliens souhaitent la fin immédiate de la guerre et la finale d'une émission de télé-réalité culinaire diffusé en prime time. Nous sommes régulièrement pris de court par l'annonce d'un nouveau soldat tué. Au milieu de cette réalité en dents de scie, une chose est toujours présente. Il y a des jours où on s'accroche à l'espoir que les otages reviendront bientôt et d'autres où on n'y croit plus. Il y a des jours où les soldats meurent, il y a des jours où ils ne meurent pas. Il y a des jours où la coalition Netanyahou semble sur le point de s'effondrer. Et les jours où on a l'impression que ce gouvernement va nous traquer pour l'éternité. Mais il y a une constante. Presque chaque jour depuis 4 mois, un nombre à 2 ou 3 chiffres de civils sont tués à Gaza. Les jours heureux comme les jours tristes, quand vous pleurez un soldat tombé au combat ou quand vous riez d'un sketch à la télévision, quand vous partez en vacances en Grèce ou que vous restez coincé à l'aéroport en essayant de rentrer, quand vous êtes appelé au service de réserve ou quand vous attrapez la grippe, chacun de ces jours-là, à moins de 2 heures de route de chez vous, des enfants, des hommes, des femmes meurent considérés comme de simples dégâts collatéraux. Chaque soir, quand vous vous glissez dans votre lit et fermez les yeux, des gens que vous ne connaissez pas, mais qui ne vivent pas loin de vous, rendent leur dernier souffle. Des familles entières. Chaque matin, quand vous ouvrez les yeux pour consulter votre téléphone, que ce soit pour lire qu'une délégation israélienne part au Qatar pour négocier, pour apprendre qu'une nouvelle crise politique intérieure, sachez qu'avant même de jeter un coup d'œil à l'écran, vous êtes réveillé par une nouvelle journée au cours de laquelle des êtres humains vont mourir. Vos voisins. Cette mort n'ébranle pas tout le monde. Elle ne fait pas l'objet d'un reportage sur Channel 12 News. Elle n'a pas de présence réelle. Elle est à peine rapportée par la plupart des médias israéliens. Mais elle est persistante, arbitraire, meurtrière. Elle ne sert à rien. La pile de cadavres gazaouis grandit de jour en jour, égrenant les derniers instants de la vie des otages, annonçant à l'avance les prochains avis de décès des soldats. Elle est là pour nous rappeler l'abîme moral dans lequel nous sommes tombés. C'est un Israélien qui parle de son pays. Un abîme dans lequel la mort quotidienne de dizaines, de centaines d'êtres humains est devenue une routine. Israël, c'est aussi ça. C'est un gouvernement d'extrême droite. C'est un gouvernement qui est prêt à tout pour rester au pouvoir, en flattant les plus sombres pulsions du pays. Et vous avez aussi des Israéliens qui s'opposent à cette politique. Merci, Yoshi Forever. Alexandra Schwarzbrod est une journaliste qui signe d'excellents éditos dans Libération. Elle signe un édito intitulé ce matin dans Libération « Non-retour ». Chaque jour ou presque, depuis de nombreuses semaines, des dizaines de Palestiniens de Gaza sont tués à distance alors qu'ils essaient désespérément de récupérer le peu de nourriture distribuée ou lors de frappes sur des camps de fortune. On ne parle même plus de dommages collatéraux. De trois choses l'une, les militaires israéliens tirent soit parce qu'ils ont peur, soit parce que cette guerre asymétrique les a insensibilisés, soit parce qu'ils en ont reçu l'ordre, ou peut-être un peu des trois. Et bientôt, ils n'auront plus besoin de tirer, car si cette distribution d'aide alimentaire erratique continue, les enfants, les femmes, les hommes de Gaza seront morts de faim ou finiront par être chassés du territoire. Le cri d'alarme de l'AFP lundi sur la mort lente de ses collaborateurs palestiniens sur place, celui d'une centaine d'ONG sur la propagation d'une famine de masse dans l'enclave, montre qu'on est en train d'atteindre un point de non-retour. Les Palestiniens de Gaza, mais aussi les otages israéliens encore en vie, sont en train de mourir sous les yeux du monde entier. Le Hamas a bien sûr une énorme part de responsabilité, mais cette routine de la mort nous rappelle jour après jour l'abîme moral dans lequel a sombré la société israélienne, comme l'écrivain israélien vient de nous l'expliquer. Celui-ci n'est pas le seul. Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent en Israël pour dénoncer la politique jusqu'au boutiste et inhumaine de Benjamin Netanyahou. Mais ça n'est pas suffisant. En l'état actuel des choses, rien ne semble avoir le moindre impact sur le Premier ministre israélien, déterminé tout autant à s'accrocher à son poste qu'à se venger de l'humiliation du 7 octobre qu'il n'a pas réussi à protéger le peuple israélien. À n'importe quel prix, et avec la bénédiction et le soutien du président de la première puissance mondiale, poussé par son entourage à récupérer Gaza pour des raisons autant idéologiques que financières. Bien sûr que cette situation ne fait pas totalement les affaires de Trump, car la famine n'est pas bonne pour le business, d'où les tentatives d'obtenir un cessez-le-feu. Mais un cessez-le-feu ne résoudra pas le problème de fond israélien et américain, gouvernement israélien et gouvernement américain, veulent récupérer Gaza sans les Palestiniens. Seule une mobilisation massive des sociétés civiles en Israël, dans les pays arabes, en Europe et aux États-Unis peut faire bouger les lignes. Je suis, cette activité du Proche-Orient depuis que je suis journaliste, donc depuis une trentaine d'années, j'ai connu des séquences dramatiques dans cette région. J'ai connu des moments d'espoir aussi quand les partisans de la paix étaient sur le point d'avancer, avant d'être empêchés par les partisans de la guerre de chaque côté, que ce soit des Netanyahou ou des Hamas. Mais en 30 ans de journalisme et de suivi quasi quotidien de l'actualité dans cette région, je ne me rappelle pas que nous soyons retrouvés dans une situation aussi dramatique. moi qui essaye de faire de temps en temps preuve d'optimisme sur certains sujets en disant vous inquiétez pas, on ne sera pas tous morts demain, là sur le sujet c'est compliqué. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Où sont les initiatives fortes des pays occidentaux pour arrêter ça, quoi? Où sont-elles? Libye vient de nous raconter que les 27 ont refusé récemment de dénoncer l'accord de partenariat avec Israël. Donc, où sont les initiatives fortes des gouvernements, des pays occidentaux, européens, américains, asiatiques, pays arabes de la région? Pour mettre fin à ça, quoi. Nous serons jugés à l'aune de l'histoire pour cette inaction. Voilà. Bon, voilà pour le point du jour sur ce qui se passe là-bas, et on en parlera sans doute demain. N'épuisons pas ce sujet ce matin. Y a-t-il des pays qui ont pris des décisions fortes sur ce sujet? Pas vraiment, non. Il y a eu quelques États, notamment européens, ces derniers temps, qui ont reconnu officiellement l'État palestinien. On attend que la France fasse de même, mais c'est insuffisant, c'est insuffisant. C'est largement insuffisant. C'est largement insuffisant. Bon. On en reparle demain. On revient sur la loi du plomb. Il n'y a pas de bonne transition, hein. On a vu ce matin que la pétition avait atteint les 1 800 000. Allez, on y va. Il n'y a pas de bon enchaînement, hein. Désolé. C'est Le Monde qui nous en parle. C'est la une du Monde, dernière édition du Monde. Loi du plomb, l'exécutif à son tour sous pression. Le succès de la pétition contre la loi du plomb, qui a recueilli plus d'1 700 000 signatures au moment où l'article est parti dans le PDF, à l'impression. Là, on a vu ce matin, nous, qu'on était à plus d'1 800 000 désormais. Hop. On va utiliser ça, 1 863 000 tout à l'heure. Il y a un quart d'heure, 20 minutes. Actualise-toi, petit chouchou. Et là, on est à combien? C'est actualisé là? Ah bah c'est actualisé. 1 868 000. 794. Ouais, road to 2 millions, ouais. Easy. C'est énorme, c'est incroyable ça. Alors va-t-elle finir à la poubelle comme tout le reste? La question que pose King Julian dans le chat, c'est la question qu'on se pose, oui. Cette mobilisation embarrasse l'exécutif. Quand on dit exécutif, c'est l'Élysée et le gouvernement. Pour qui l'adoption de la proposition de loi constituait l'une des réponses à la colère des agriculteurs. Le président de la République est désormais interpellé par des associations et une partie de la gauche qui demande une deuxième délibération. Et puis il y a l'espoir, mais le monde semble dire que il est très limité, que le Conseil constitutionnel se prononce d'ici au 10 août pour invalider cette loi, en la jugeant totalement ou partiellement anticonstitutionnelle. Oui, Brown Pivet a déjà dit qu'ils allaient en parler, mais que ça ne change rien du tout. Néono, tout à fait. Oui. Lisons ce dossier, c'est page 7, c'est page 8. Loi du plomb, l'exécutif sous pression. Le succès inédit de cette pétition lancée sur le site de l'Assemblée embarrasse le gouvernement et le chef de l'État. Il aura fallu 1,5 million de signatures contre la loi dite du plomb pour que le gouvernement cesse de regarder ailleurs. Je ne crois pas me rappeler qu'une pétition en France ait déjà recueilli autant de signatures. Si, il y a déjà des pétitions qui ont recueilli plus de signatures que celle-ci. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé lundi, en fin de journée, que le gouvernement était pleinement disponible pour un débat. Non, c'est la première fois. Ça, oui, c'est ça. Aucune sur le site de l'Assemblée. Parmi les pétitions officielles, non.
D'accord.
Si, sur le port du croc-top. OK. Donc, le gouvernement est disponible. Formidable. Cette mobilisation citoyenne est l'accroc que l'exécutif occupé à la préparation du prochain budget n'avait pas vu venir. Présentée comme l'une des réponses à la colère des agriculteurs de l'hiver 2024, la proposition de loi des sénateurs Laurent Duplomb, agriculteur, proche de la FNSEA, et Franck Menonville, adoptée par le Parlement le 8 juillet, prévoit notamment la réintroduction, vous le savez désormais, hein, à titre dérogatoire et sous condition de l'acétamipride, pesticide de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France mais autorisé en Europe. Une disposition qui va aggraver l'exposition aux pesticides des agriculteurs, des fleuristes, des jardiniers, des vétérinaires et celle des riverains des zones d'épandage, alertait le 27 juin la Ligue contre le cancer. Une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire selon le texte de la pétition. On s'est déjà pas mal penché, sur les accusations scientifiques et les arguments des agriculteurs qui estiment qu'au contraire, c'est pas dangereux. Dans ces derniers jours, vous aurez tout ça en replay. Lancée par une étudiante sur le site de l'Assemblée, celle-ci a dépassé en quelques jours seulement le seuil requis des 500 000 signatures pour obtenir un débat en séance. La présidente renaissante de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, y est favorable tout en précisant que ce débat ne pourra en aucun cas revenir sur la loi votée. Donc, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, dit « Ok, le débat, bien, on est obligé quand même, mais il n'y aura pas un nouveau vote ». De plus, en raison des vacances parlementaires, la conférence des présidents de l'Assemblée, parce que c'est elle qui décide, ne pourrait décider de l'organisation d'un débat sur la loi Duplomb avant le 16 septembre. Voilà. Lien de la pétition, Google, pétition, loi Duplomb. C'est le premier lien que tu vas trouver. Je ne vais pas vous expliquer Internet quand même. Aussi, les regards se tournent désormais vers le président de la République. Deux associations de protection de la nature ont demandé à Emmanuel Macron, mardi, alors que la pétition engrangeait déjà près d'1,7 million de signatures, d'utiliser son pouvoir constitutionnel pour provoquer un réexamen de la loi. Le président de la République a ce pouvoir. Il peut demander un réexamen de la loi. Requête déjà formulée par une partie de la gauche. Au nom de l'indignation exprimée par plusieurs centaines de milliers de Françaises et de Français, nous vous demandons solennellement, en application de l'article 10 de la Constitution, de ne pas promulguer cette loi en l'état. C'est un pouvoir qu'il a. Et de la renvoyer au Parlement pour un nouvel examen. Écrivent la LPO, la Ligue de protection pour les oiseaux, et l'Association Humanité et Biodiversité. L'article 10 de la Constitution prévoit que le président de la République peut demander au Parlement ça c'est important. Une nouvelle délibération de la loi ou certains de ces. C'est arrivé dans le passé déjà à plusieurs reprises. Ou de certains de ces articles. Il y a des lois qui ont été votées dans l'histoire de la 5e. Il y a des lois qui ont été votées qui n'ont jamais été appliquées. Parce que le président de la République a dit qu'elle ne s'appliquerait pas. Peut-être que le monde va le rappeler. Sinon, on ira voir. On ira voir. Je crois que Chirac, notamment, je pense qu'ils l'ont tous fait, mais on va essayer de retrouver ça. Dans une tribune publiée dans Le Monde, 21 juin, un collectif de professeurs de droit, soulignant qu'une telle mobilisation ne peut laisser indifférent, confirme que le chef de l'État a la possibilité de ne pas promulguer. Ah, le CPE, voilà, Chirac avec le CPE, le contrat première embauche. Ouais, ah ouais, c'est vrai, loi votée, jamais appliquée. C'est vrai. Bien joué. Ils sont forts. Donc, le collectif de professeurs de droit confirme que le chef de l'État a la possibilité de ne pas promulguer cette loi Duplomb. Cette disposition exceptionnelle a été utilisée à trois reprises depuis le début de la 5e. En 83 pour empêcher la promulgation d'une loi devenue inutile. En 85 et en 2003 pour remédier à une déclaration d'inconstitutionnalité partielle prononcée par le Conseil constitutionnel. D'accord ? Ok. Dans le cas de la loi Duplomb, il ne s'agirait pas de s'opposer à la loi, mais de tenir compte d'un élan démocratique historique et inédit, justifie l'un de ses professeurs de droit. La démocratie directe peut-elle remettre en cause la démocratie représentative ? Alors ça, c'est un grand débat, ça. Pour Guillaume Gourges, maître de conférences en sciences politiques à Lyon. C'est bien tout le problème. On met en place des instruments de participation des citoyens, cahiers de doléances, conventions citoyennes, référendums, initiatives partagées, tutti quanti. Et on se rend compte assez vite que les politiques ne leur accordent aucun crédit, ni aucune légitimité. Pour ce spécialiste des questions de démocratie participative, gouvernement et élus sous-estiment par ailleurs l'ancrage des préoccupations environnementales dans la population et l'agacement des Français à l'égard du contournement du débat. Grâce à des instruments comme le vote bloqué pour la réforme des retraites, vous vous souvenez, ou la motion de rejet pour la loi Duplomb. À ce stade, le président Macron, soucieux de rester éloigné de la polémique, se retranche derrière le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer d'ici au 10 août. Le président ne peut pas s'exprimer avant que les membres du Conseil n'aient rendu leur décision, affirme son entourage. Les risques d'invalidation du texte par les juges de la rue de Montpensier, donc on parle du Conseil constitutionnel, semblent cependant limités, nous dit Le Monde. La solution ne viendra pas du Conseil constitutionnel, pronostique d'ailleurs le député Renaissance des Côtes-d'Armor, Éric Botorel, qui a voté contre le texte. Sauf à sanctionner le recours en première lecture par la droite et le bloc central, partisan du texte à une motion de rejet préalable, mise en œuvre pour contourner le mur d'amendements qui a été déposé par la gauche et les écologistes, la motion de rejet a été détournée de sa vocation, et on a déjà expliqué tout ça, et a été détournée des parlementaires de leur droit d'amendement. Bon, je rappelle qu'un truc qui est arrivé très rarement, c'est que les partisans du texte ont voté une motion de rejet préalable pour rejeter le texte. Normalement, c'était les opposants qui devaient faire ça. Mais ce faisant, ils squeezaient le débat et l'examen des amendements déposés par la gauche et les écologistes pour aller directement en CMP, en commission mixte paritaire, où un certain nombre de sénateurs et de députés se sont entendus sur une version du texte. C'est celle qui a été votée, mais sans le débat. En fait, ils ont détourné un élément du réglementaire du débat législatif. À leur avantage. De fait, l'adoption de cette motion de rejet préalable a été dénoncée au sein même du bloc central. Les motions de rejet sont détournées, déplorées le président du groupe Modem à l'Assemblée, par exemple, Marc Fesneau. Donc même au centre, même du côté des macronistes, on le dit, quoi. Alors certains constitutionnalistes, professeurs de droit sont optimistes. Comme le rappellent Jean-Philippe Derosier et ses collègues juristes dans leur tribune, Emmanuel Macron s'est souvent montré soucieux des sujets relatifs à l'environnement. Depuis son « Make our planet great again » face à Trump en 2017, par ailleurs, l'actuel chef de l'État ne s'interdit jamais d'user d'un droit que la Constitution lui confie. Ah, j'ai zoomé. Mais demander une nouvelle délibération au lieu de promulguer la loi vaudrait à Emmanuel Macron de vives critiques de la part des élus les Républicains, qui sont à l'origine du texte. Ils l'ont voté comme un seul homme. Si vous cherchez l'origine du texte, on est plutôt vers la droite traditionnelle, les LR, quoi. Le chef de l'État se mettrait aussi à dos une partie de sa propre famille politique, hein, puisque 64 députés macronistes ont voté pour la proposition de loi, 14 contre et 10 abstentions. Sans parler des agriculteurs, dont il a déjà eu à affronter la colère en février 2024 au sein de l'agriculture, s'il refuse de promulguer ce texte, personne ne lui dira merci, note un ancien ministre, il n'y a rien à y gagner. Enfin, rien parmi ses soutiens, quoi. Mal barré ce truc-là. Lord Tistou n'a pas tort. Le truc avec cette pétition, c'est qu'elle remet en perspective les mouvements populaires type Gilets jaunes ou autres que l'exécutif craint. Ça montre un bouillonnement de la population, même si je refuse que ça se fasse dans la violence ou dégradation des biens. C'est l'opposition entre démocratie représentative et démocratie populaire, c'est ce que disait l'article. Démocratie directe, démocratie représentative. Ouais. On a vu que tous les agriculteurs n'étaient pas d'accord avec cette loi. Bien sûr, Luzarc, bien sûr. Hein, ce sont certains agriculteurs, la grosse agriculture, l'agriculture productiviste, les grosses exploitations, ce sont eux, les betteraviers surtout, avec l'insecticide évoqué là. Voilà. Betterave qui sert essentiellement à fabriquer du sucre, hein, qui part dans l'industrie. Hein, moi, quand j'entends les agriculteurs, pff, ça veut rien dire. Comme le dit Truc, comment c'est quoi ton pseudo qui est mignon, Trucumuchu, tous les agriculteurs ne sont pas en faveur de cette loi qui va surtout bénéficier aux énormes groupes puissants. Rendershack, en fait, écoutez, ta revue de presse, ça gâche la journée, je m'étais levé du bon pied pourtant. Écoute, c'est un problème même pour moi. C'est-à-dire que le problème dans l'information, c'est qu'on rapporte surtout ce qui ne va pas dans notre monde, alors qu'il y a plein de choses qui vont très très bien. Parce qu'en parlant des choses qui ne vont pas, ça nous permet d'avoir les outils peut-être pour les changer. Ça, c'est mon côté optimiste. Mais parfois, ça tape le moral, ouais. Voilà. Mais il y aura du gaming cet après-midi. Salut, Brocoline. Il y aura du gaming cet après-midi. Non, on est sur Death Stranding cet après-midi pour essayer de pousser notre nouveau PC portable dans ces retranchements-là. Je soutiens les agriculteurs de manière générale, nous dit Lord Tistou, mais il faut les aider en consommant différemment. Le tort de cette pétition, c'est que c'est eux qui prennent pour une contestation sociale de l'exécutif. Vers quelle heure la détente? Bah, là, d'ici 1 heure et demie. Je pense vers 13 h, ça devrait lancer, 13 h. Je cutterai ce stream de revue de presse, j'irai manger une demi-heure et je vous lancerai le stream gaming, on passe l'après-midi ensemble, quoi. Il y aura un petit déj, il y aura un déj. T'es en Corse? Oui. Je vous lis, c'est mon petit plaisir. Vas-y, mon colline, envoie. Dis-moi. Faire qui? Samuel Etienne, tu es encore en Corse? Oui. Pas trop galère l'installation du nouveau PC hier. Très fier, safe crash. C'est tout fait avec mes petits doigts. La caméra, le son, les scènes. Les jeux, le téléchargement, ça tourne, c'est impeccable. Low gaming. Ok, je note. LA. T'as pas mis de point de chaîne, par contre? Si? Ah si, t'as mis. Low gaming. Une copine à moi, super chouette, toute pipou. Je vais voir. Merci, Mister Z Cool, ça fait plaisir. Pour moi, le plus gros risque, pardon, excuse-moi. Pour moi, le plus gros risque avec cette pétition, nous dit Heroes Live qui a raison. Et cette loi, c'est que si les votants ne sont pas écoutés et qu'ils sont totalement ignorés, on parle de ceux qui ont voté pour la pétition là, cela va encore plus creuser la méfiance du peuple contre l'outil démocratique français. C'est intéressant ce que nous dit Linakos. Pour info, quand l'industrie de la betterave française dit que les autres pays ne sont pas soumis aux limitations de pesticides pour leur production de betteraves, c'est vrai. Écoutez l'argument. Waouh, je viens de voir passer un soleil là. Pour info, quand l'industrie de la betterave française dit que les autres pays ne sont pas soumis aux limitations de pesticides pour leur production de betteraves, c'est vrai, ok? Mais, sauf que les autres pays ne produisent que très peu de betteraves, la France est le deuxième pays mondial. C'est un truc que j'ai lu ce matin dans la presse en disant, oui, c'est vrai, les producteurs de betteraves, ils ont un vrai souci. En sachant que l'ANSES dit qu'il y a quand même d'autres insecticides qui pourraient être utilisés par ailleurs, qui seraient moins dangereux. Mais bref, oui, s'ils ont raison, c'est blablabla, blablabla. Sauf qu'en fait, on n'est pas obligé de fabriquer, de produire de la betterave. Hein. Bon, là, j'apprends qu'on est le deuxième producteur mondial. C'est parce que je ne le savais pas. Et bien, parce que disait l'article, on n'est pas obligé de faire de la betterave. Sucre et carburant, ouais, méthane. Hein? Qu'est-ce qui nous y oblige? C'est manifestement essentiellement un truc pour l'exportation et pour l'industrie, quoi. Je savais pas qu'on était numéro 2 mondiaux, par contre. Et numéro 1 en Europe. Derrière la Russie. On était même numéro 1 à un moment. Voilà. Alors justement, j'ai un autre article ce matin sur l'agriculture. C'est un article dans l'Humanité sur un livre, une enquête qu'a réalisée une journaliste. Alors il se trouve que je la connais parce que je travaillais avec elle à Canal+, à ITV, qui s'appelle Caroline Dussin. Donc je suis très heureux d'avoir de ses nouvelles. C'est une très très bonne journaliste, plutôt spécialisée politique, mais qui a fait un... Oh, attendez, il y a Solal. Attendez, attends Solal. Non, non. Attention mon cœur. Voilà, excuse-moi, je n'avais pas mis l'alerte. Ça va? Qu'est-ce que tu viens me faire? Qu'est-ce que tu dis? Mets ton casque, je t'en... Mets ton casque, ça m'intéresse. Mets ce casque-là. T'es encore tourné à la piscine? Solal, 5 ans, nous a rejoint pour une petite pause. Attends, t'as le fil qui t'embête. Bon, attends. Laisse-moi enlever ton fil, le fil. Là, voilà. Alors, t'es encore à la
j'ai
piscine?
J'ai pas fait mon quiz.
T'as pas fait... Non, t'as pas fait ton quiz, mais c'est pas grave, y a pas que le quiz dans la vie. Alors, t'es à la piscine?
Oui.
T'as essayé un nouveau masque?
Oui.
Un masque comment? Un masque rond?
Oui.
Il était bien? Et t'as plongé? T'as nagé sous l'eau?
Non, j'ai regardé. Je pense que j'ai fait 30 allées. Non.
Wow.
15 allées.
Wow.
15 retours.
Dans la piscine?
Oui.
Wow. Malo, 5 ans, qui nage sans bouée.
Non, pas Malo.
Je suis bête. Solal, 5 ans, qui nage sans bouée. Sans gilet. Cette année. Hein?
Oui.
Tu mets plus de bouée, plus de gilet? À 5 ans? Bah bravo mon cœur, je suis très fier de toi, tu sais. C'est fou, maman elle croyait pas. Hein, maman elle croyait pas que dès cet été il pourrait nager sans bouée, sans gilet. Incroyable, hein. Faut pas que tu touches le micro. Tiens, prends ta gourde. Hein? 15, il m'a dit 15, allez, 15 retours. Avec son truc. C'est bien mon grand. En termes de sécurité, c'est cool. Je suis fier de toi. Sans s'arrêter?
Si, s'arrêter, mais j'avais la tête dans l'eau.
Incroyable.
Si, j'avais la tête dans l'eau, mais sauf que tu ne me voyais pas, je m'arrêtais un coup et après. Quoi? Non.
Bravo, Solal.
J'ai un peu comme ça.
Je suis fier de toi. Bon. Tu sais, tu n'es pas obligé de faire une chronique ce matin, ça peut être demain. Hein. C'est toi, si tu vois avec maman, je te laisse voir. Je suis fier de toi. Hein. Prends pas froid. Hein. Ça va? Ça nage un peu, j'ai vu Gabi faire un peu de piscine aussi. Malo aussi? Hein? Tout le monde?
Et un peu mamie.
Et mamie aussi a fait la piscine? Tout le monde a fait la piscine, sauf moi, quoi. Et moi, c'est Gaza et l'agriculture, quoi. Super. Bisous, mon cœur. Regarde comment il ferme la porte. Tu vois comment il fait attention. Solal! Montre à maman comment tu fermes la porte. T'as vu? Il est incroyable. Bon, ben voilà. Moi, je raconte Gaza et l'agriculture. Tu live pendant qu'ils vont à la piscine? Bah oui. Bah oui. Bon, aujourd'hui, double stream, mais c'est exceptionnel parce que je stream que le matin en ce moment. Non, c'est pas qu'il s'est fermé les portes, c'est qu'il y a une grosse porte-fenêtre là, assez lourde, en capacité de couper le RJ45 qui me rejoint, qui me relie à la box qui est au-dessus là. Donc j'ai un RJ45 de 50 mètres. Ça rigole pas ici. Et donc, il faut faire attention quand on ferme la porte. Et Solal, il fait ça avec beaucoup de précautions, quoi. Parce qu'il sait que le RJ45, c'est important. Voilà. C'est un câble plat. Merci, Draconian. Comment vas-tu pour l'abonnement offert à Brocoline? Merci d'être là. Merci, Morglas, pour le troisième mois d'abonnement. Merci, Expanium, pour le Prime. Wallart, on l'avait fait déjà, cette recherche un peu sur l'acétamipride. On a opposé plusieurs regards dans ces deux derniers jours. Là, tu l'auras en replay. Oui, ou alors, comme le proposait un viewer tout à l'heure, pourquoi tu ne remplaces pas ton RJ45 par un câble sans fil? C'était un bon moment, ça. Pourquoi tu ne connectes pas en Wi-Fi? Parce qu'ici, on n'aime pas streamer en Wi-Fi. Ici, on aime streamer avec stabilité, avec qualité. Ici, ça stream en RJ. Direct to the box. Voilà, on ne stream pas en Wi-Fi, on ne stream pas en Wi-Fi, on ne stream pas en Wi-Fi à la maison, on ne stream pas en Wi-Fi Ici, on ne stream pas en Wi-Fi à la ZLAN, on ne stream pas ici au The Event. Et le CPL, ça n'est pas ça n'a pas la même stabilité, je suis désolé. Ça dépend des habitations, comment c'est foutu et tout. Voilà. On stream en RJ45. Voilà. On est sur du carré. Voilà. Tu rentres quand en France ? Alors, la Corse est en France. Sinon. Tu rentres qu'en France. Pardon. Oui, mais en France, la France de Paris, quoi. Il me reste encore une dizaine de jours ici. Allez, oui, donc je vous parlais de l'humanité. Hop, on y va. Twench, sage décision pour le Wi-Fi, au-delà de la stabilité, surface d'attaque bien réduite. Eh oui, bien sûr. Alors, Luma, c'est parti. Lire le numéro 24240 de l'UMA. On va aller voir la Thaïlande et le Cambodge, là, vous m'en parlez, on va aller voir ça. Ouais. Voilà, c'est la une de l'UMA ce matin. Enfin, c'est un des gros dossiers de l'UMA, par exemple. Pardon. C'est un livre qu'a écrit une journaliste, il se trouve que je connais, je m'en suis rendu compte après, Caroline Dussin, journaliste politique à la base, mais qui a écrit un livre sur l'agriculture française. Et qui nous dit en fait que l'élevage intensif, dans un pays comme la France, l'élevage intensif qui existe, contrairement à ce que disent certains, n'a qu'un but, le profit, dit-elle. Alors que la pétition contre la loi du plomb avoisine à ce jour les 2 millions de signataires, les débats autour de l'agriculture font rage, y compris dans ce chat. La réalisatrice Caroline Dussin revient sur le déni français concernant les pratiques industrielles. Alors, c'est pas une militante, je la connais bien, elle n'est pas dans une ONG, c'est pas une politique, c'est une journaliste. Moi, je l'ai bien connue à ITL et Canal+, journaliste plutôt politique d'ailleurs. Et donc, elle a fait un travail de journaliste là-dessus. Alors, vous pouvez le trouver bon, pas bon, être d'accord avec... En tout cas, ce n'est pas un travail militant, je peux vous l'assurer. L'élevage intensif, en France, ça n'existe pas. Qui dit ça ? C'est le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, récemment sur BFM. La journaliste et réalisatrice Caroline Dussin a enquêté, elle, sur les pratiques d'élevage en France, à l'image de celles des autres pays, alors que la population reste dans un déni quasi total à ce sujet. Elle décrypte ce paradoxe dans un livre qui vient de sortir en avril dernier, « Un déni français, enquête sur l'élevage industriel ». Quelle est la proportion de l'élevage intensif en France ? Demande l'humanité à Caroline Dussin. Je vous lis. Alors, elle répond. Les gouvernements et les administrations publiques estiment que nous n'avons pas d'élevage industriel en France. Ah bon ? Ça dit ça ? Ok. Nous n'avons certes pas d'usines à cochons chinoises ou les fermes texanes avec 40 000 vaches, car nous n'avons pas l'espace. L'élevage intensif, vu comme un ensemble de pratiques destinées à augmenter la productivité des animaux sur des espaces et des temps réduits, reste profondément majoritaire. Et cela peut se faire sur de petits cheptels. Ce n'est pas qu'une question de taille. La sélection génétique crée des corps dans lesquels les animaux sont condamnés à souffrir. Les poulets de viande se retrouvent avec des torses disproportionnés pour faire du blanc. On a tellement spécialisé ces usines qu'il n'y a plus de polyculture élevage. Des régions sont spécialisées dans la production de viande et étouffent sous le lisier, bon, voilà, la Bretagne notamment, d'autres dans les céréales et suffoquent sous les pesticides. Selon les statistiques publiques, 96% des porcs sont élevés sur caillebotis, hors sol, dans des bâtiments où ils ne verront jamais un brin d'herbe. On parle de 96% des porcs. 80% des poulets dits de chair destinés à faire de la viande sont élevés avec ce type de pratique également. Nous sommes le premier producteur de viande bovine en Europe, le deuxième producteur laitier. On est très loin de l'univers familial décrit dans les discours, dit cette journaliste. Question de l'UMA, est-ce que la loi du plomb va aggraver cette tendance ? Caroline Dussin répond, je n'aurais jamais imaginé un tel recul avec la norme ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, les plus gros élevages français doivent faire l'objet d'évaluations environnementales, d'autorisation, d'enquête publique. La loi du plomb a doublé les seuils, je vous en ai déjà parlé, il n'y a pas que l'histoire de l'insecticide. Étant considérés comme ICPE, les élevages de 40 000 poulets, ce qui est énorme, désormais, ce sera plus de 80 000 poulets. Oh, la taille de l'exploitation, quoi. Ce qui est énorme, désormais, 80 000. Même logique pour les vaches et les porcins, c'est sidérant, dit cette journaliste. Un stade de France de poulets. Ah ouais, j'avais pas l'image, ouais. Ah ouais, un stade de France de poulets. En dessous, 79 999 poulets. T'auras pas d'autorisation spéciale, si je comprends bien, quoi. Comment en est-on arrivé à cette industrialisation ? Questionne Luma. L'industrialisation, répond Caroline Dussin, entamée avec le remembrement, est vraiment lancée en 1945. Dans le sens d'un intérêt collectif. À l'époque, il fallait nourrir la France. Le point de bascule survient dans les années 70-80. Avec les premières crises de surproduction, on commence à exporter. Les éleveurs s'appauvrissent et en parallèle, des effets sur l'environnement apparaissent. Il y a une volonté politique de favoriser les grandes exploitations. Et le remembrement a vidé la campagne. Les paysans ne représentent plus que 1,5% de la population contre un bon tiers dans les années 50. Ce développement de l'agriculture et de l'élevage industriel profite essentiellement aux gros éleveurs et agro-industriels. L'argument de la souveraineté alimentaire est-il fondé ? Il est complètement fallacieux, selon la journaliste. Ce sont des choix de marché. On importe 25% de notre nourriture, mais on exporte à peu près la même proportion, dit-elle. La France exporte des millions de poules en Arabie Saoudite, des millions de veaux en Italie pour les engraisser. Nous dépendons à 80% de la Russie pour les engrais azotés. Il est paradoxal de produire chez nous des choses qu'on ne peut pas produire sans des éléments qu'on va chercher ailleurs, dit-elle. L'industrie des produits animaux génère énormément de profits. Et pour faire perpétuer ce système, il y a ce déni. Continuer à raconter des histoires pour prospérer. Ça, c'est l'histoire de la souveraineté alimentaire, selon cette journaliste, avec beaucoup d'argent mis dans la communication. L'humanité relance le fait de voir quelques vaches dans les prés alimente ce mythe. Quand vous conduisez en bagnole, vous voyez des vaches dans les prés. Et elle répond, il existe un phénomène très particulier que j'ai appelé la vache qui cache la forêt. Quand on se balade à la campagne, on voit des petits cheptels de bovins qui correspondent à notre imaginaire. Mais ces vaches représentent 1% des animaux abattus chaque jour. Où sont les 99% d'animaux restants ? Il ne s'agit pas de culpabiliser, dit-elle. Le problème est collectif. Des produits laitiers au petit-déj, de la viande au déjeuner, du saucisson à l'apéritif. C'est ce qu'on nous a vendu. À qui cela profite ? Pas aux animaux tués massivement, 3 millions par jour. Pas plus aux consommateurs avec des maladies liées à la surconsommation de viande comme le cancer colorectal. Ni aux éleveurs dont le niveau de vie s'est dégradé. Si ce système ne bénéficie plus qu'à une seule catégorie, alors, dit Caroline Dussin, il faut s'interroger. Je vois que les amis du saucisson sont en colère dans le chat. Est-ce que cela signifie qu'il faut changer notre façon de manger ? Et elle répond, cette journaliste, si on veut retrouver un élevage paysan, il faut baisser les quantités. Manger autant de viande qu'aujourd'hui suppose de la produire de façon industrielle. La classe politique, la FNSEA et les lobbies industriels ont créé sur la base de notre expérience de la Seconde Guerre mondiale et nos nostalgies l'idée que les classes sociales les plus pauvres manquaient de viande. Lors du débat autour de la cantine municipale de Lyon où après le Covid il y a eu un menu sans viande, Julien de Normandie et Gérald Darmanin ont affirmé que les enfants des classes populaires n'ont que la cantine pour manger de la viande. Or, des études d'instituts comme l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui ont pourtant travaillé pour l'élevage industriel, montrent que les catégories les plus aisées mangent moins de viande et que les classes défavorisées en consomment trop. Ce sont les légumes, les légumineuses dont sont privées les classes populaires. Nous ne sommes pas en mauvaise santé à cause des carences, mais à cause des excès. L'alimentation industrielle, les sodas, le sel, les plats préparés, le trop de viande, comme le montre l'ANSES, ce n'est pas l'ouvrier qui réclame sa viande quotidienne, ce sont les industries qui tirent profit de ventes massives. C'est le livre de Caroline Dussin. À vous. Ce serait intéressant, une émission de débat sur Twitch sur des sujets actuels avec du fact-checking, des gens directement concernés par le sujet. Ouais, c'est beaucoup de boulot, un gros travail de prog, énormément de travail, voilà, beaucoup de polémiques. Ça part sur Twitter après avec des gens qui n'ont pas écouté le débat, qui disent que c'était pas les bonnes questions, pas les bonnes réponses, pas les bons invités. Flemme. On connaît, on connaît. Je mange de moins en moins de viande, me dit Métui, mais j'aurais du mal à arrêter la charcuterie alors que c'est le pire en termes de quantité de veau pour produit de viande pour produit final. Et si Twitter regardait le contenu avant de parler, ça se saurait malheureusement. Ouais, on connaît, on connaît. Un texte rempli de bon sens et de logique, dit Vico à propos du livre de Caroline Dussin. Manger moins de viande, mais de meilleure qualité et plus éthique favorise une alimentation plus végétalisée. Mon père mange full viande à chaque repas de très mauvaise qualité. Je me suis résigné de mon côté à ne manger que du plein air pour le poulet, par exemple. Je mange plus cher, mais beaucoup mieux, me dit Matzer. On est tous faibles face à l'alimentation, me dit Xscape. Il est temps que les convictions dépassent les addictions. J'aimerais consommer moins de produits animaux venant d'élevage intensif, me dit Antonin, pardon. Mais les prix sont trop élevés. Team sous le seuil de pauvreté. Du coup, je mange de la merde industrielle. En pleine période d'inflation, bon, l'inflation elle a baissé de choc là, mais j'entends. Les Français sont-ils prêts à payer plus cher de la viande? C'est terrible que les agriculteurs soient ainsi représentés par des dir un dirigeant de l'agrobusiness. Ils sont aussi soumis à la pression des grosses coopératives, me dit Mantoutri. Il faut les aider, les agriculteurs, hein, à ce changement de modèle. C'est aussi ce que ne fait pas assez notre société, hein, par notre consommation, ou par les lois, ou par le soutien des pouvoirs publics. J'ai étudié dans le milieu agricole, me dit Miss Gaériel, un BTS, ça m'a ouvert les yeux sur l'instrumentalisation des animaux. Ils ne sont que de l'argent à leurs yeux, j'ai vu beaucoup d'exploitations, résultat, j'ai totalement arrêté la viande et je vis bien mieux depuis. Mon oncle est agriculteur, me dit Clash of Craft, et après discussion avec les apiculteurs, il a décidé de limiter les pesticides dans les champs proches des ruches. GG à lui. J'ai deux commentaires collés qui vont un peu dans le même sens, qui sont intéressants. Dacudiso. Je trouve qu'en France, on est des pourris gâtés. Faire des petits efforts dans nos achats pour être fraternels envers nos agriculteurs, on le prend comme une insulte parce que ça arrange pas notre petite consommation, c'est vraiment des caprices. Et Jisuito, juste en dessous, je pense que nous ne sommes pas prêts à payer plus cher pour de la viande alors qu'on est capable de mettre un SMIC dans un téléphone. Je vous lis, on est là aussi pour échanger, pas que pour lire les journaux. Ok, bon. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini avec la loi du plomb. Voilà. Voilà. On verra notamment ce que dit le Conseil constitutionnel. On verra notamment comment se comporte le président Macron. Bon. Et on verra l'évolution de la pétition qui est ce matin à on va actualiser, qui a peut-être passé les 1 900 000. Pas encore. 1 871 894. Le prochain qui me demande de l'épingler, je lui dis Google, pétition, Duplon, premier résultat. Quelqu'un m'a parlé d'un conflit naissant entre deux pays d'Asie, là. C'est pas dans les journaux ce matin, mais on va aller chercher. C'est quoi? Cambodge, Thaïlande? Let's go. Priorité à l'actu, comme disent certaines chaînes info, là, qui veulent vous faire croire qu'il se passe toujours quelque chose chaque seconde pour vous rendre esclave des notifications. Faites pas ça, hein. Zéro notif, hein, les gars. Zéro notif sur les téléphones, sur les machins. Hein. L'actu, c'est quand vous voulez, quand, au moment où vous voulez. Sinon, ça va vous rendre dingue. Ok, Libération. Bim. De nouveaux affrontements. J'ai pris le premier résultat. À la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, font au moins 12 morts. Ouh, qu'est-ce qui se passe? La Thaïlande qui se dispute le tracé de la frontière avec son voisin, Thaïlande-Cambodge, affirme ce jeudi qu'au moins 14 personnes ont été blessées dans le nord-est du pays. Les relations diplomatiques entre les deux États sont désormais à leur plus bas niveau. Bah oui, tu m'étonnes. Qu'est-ce qui se passe? 12 civils thaïlandais, dont un enfant de 8 ans, ont été tués ce jeudi lors d'affrontements dans la province de Surin, dans le nord-est, qui sépare le Cambodge et la Thaïlande, aggravant un peu plus les deux tensions qui se disputent entre les deux voisins qui se disputent le tracé de leurs frontières communes. Je ne savais pas qu'il y avait un problème. Les échanges de tirs ont éclaté jeudi autour de deux vieux temples datant de l'époque d'Angkor. Okay. Les deux armées se sont mutuellement accusées d'avoir ouvert le feu en premier. Bon, ça, c'est un classique. Voilà. Bon, les deux armées, chaque armée affirme que c'est l'autre. Alors, c'est ça qui m'intéresse, moi, parce que je n'avais pas le contexte. Les deux royaumes d'Asie du Sud-Est s'opposent depuis longtemps sur le tracé de leurs frontières communes, définies du temps de l'Indochine française. Mais la crise en cours est la plus grave depuis près de 15 ans. Le Cambodge a indiqué ce jeudi avoir de nouveau rétrogradé les relations diplomatiques avec son voisin, désormais au plus bas niveau. Oui, bah oui. La veille, Bangkok a rappelé son ambassadeur en place à Phnom Penh. Ok. Donc ça, c'est un petit article de Libé vite fait avec l'AFP. Oh là, il y a le Figaro qui fait aussi un truc. On regarde un petit peu les sources. Là, il y a un titre de La Croix également. Bon, les premiers articles sont souvent faits avec les dépêches AFP. Donc je pense que dans les prochaines heures, on va avoir des articles un peu de fond. Et je pense que je vous mets ma main à couper, c'est un peu dangereux, mais que demain dans la presse, il y aura des articles de fond qui vont revenir un peu sur l'histoire des deux pays. Mais d'ailleurs, dans le. J'ai une bêtise, parce que dans l'article de Libé, il y avait un lien vers justement cette histoire-là. Ici, là. Voilà, et ça renvoie à un article de juin dernier. Mais on y reviendra demain matin, c'est sûr. Je suis abonné. Il faut que je le dise à l'IB. Je vais me connecter. Bougez pas. Yes, oui, abonné. Je profite. Je suis abonné. Oui, connectez-vous. Je me connecte. OK. Alors, mot de passe. Sam le BG. ttbm@caramail.com. Ok, j'espère que c'est celui-là. J'espère que ça marche. J'ai pas mon. Oh, ça marche. J'avais le bon. Enregistrer le mot de passe. Let's go. TTBM, j'ai la ref. J'espère que vous avez la ref. Non, je voulais pas. Je tape mon numéro de téléphone en direct en plus. Alors, est-ce qu'on a un petit peu de contexte? Malgré un dialogue bilatéral des efforts diplomatiques lancés au lendemain des premières escarmouches le 28 mai, parce que ça fait un petit moment que ça couve cette histoire, la situation semble dans une impasse avec des passes d'armes rhétoriques qui risquent d'alimenter une nouvelle flambée nationaliste de part et d'autre de la frontière. Ok. sans remonter à l'époque des royaumes Khmer et du Siam, les deux pays partagent une histoire nourrie d'accrochage de différents frontaliers sur les 800 kilomètres qu'ils partagent. Cette série de contentieux territoriaux, c'est pas nouveau, hein ? C'est aussi vrai du côté vietnamien, donc ça remonte même avant la colonisation, manifestement. Est en partie l'héritage, en partie, du protectorat français sur le Cambodge entre 1863 et 1953, comme beaucoup de conflits modernes d'ailleurs. J'aurais pas dû aller voir c'est quoi TTBM. Ah, désolé. Ok. Ouais. Bon, demain, on aura sûrement du contexte. Hein. Gageons que Le Monde, Libération, Figaro vont nous pondre un petit truc là-dessus, quoi. Ou TTBM, c'est très très beau, monsieur, pour ceux qui n'ont pas l'info. Oui, j'arrête, ne va pas chercher, reste innocent, c'est mieux. Merci Antonin pour le Prime que je n'avais pas vu. Ah, je suis la série, j'attends le bon article, Sugar. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste après ? Bon, un petit coup d'Ozzy Osbourne. Hein ? On lui a rendu hommage hier, grâce à vous, vous avez été les preuves. Prompt à me dire hier matin, Samuel, le leader de Black Sabbath est mort. Il faut lui rendre hommage. Je dis, what ? On est allé voir, on a écouté un titre d'ailleurs qu'on a écouté à Malo, qui a beaucoup aimé. Et il y a un hommage de 2 pages, je crois, ce matin dans Libé, à monsieur Osbourne. Ouais. Je suis Sugar, ne t'inquiète pas. Libé, what ? Oh putain, Gaza, c'est tellement chaud. Page 22. Ah oui, là, il y a un truc bizarre sur des partous bio gays dans Libé. On vient de passer dessus très vite, là. Twitch ne me bannait pas, c'était pas exprès. Voilà. Si pour ceux que ça intéresse, il y a une double page dans Libération aujourd'hui sur les partous gays bio. On dit chemsex, je sais pas. Sans produit dopant, là. Voilà. Donc, c'est intéressant. Oui, bah bio. Sans truc. Voilà, deux pages de reportage, mais vraiment, comment vous dire, très précise. C'est vraiment, il y a eu immersion du journaliste ou de la journaliste qui vraiment décrit. Donc c'est vraiment, c'est dans des bars, boîtes, notamment à Paris, je crois. Donc j'ai lu ça ce matin parce que je l'ai tout. Et c'est vraiment très précis. C'est-à-dire vraiment, c'est très détaillé. Le reportage est très détaillé, quoi, sur ce qui se passe. C'est vraiment des partous. Hein. C'est vraiment du sexe de groupe, quoi. Et là, c'est avec des endroits où vraiment sont proscrits les drogues, quoi. Voilà. Et donc, je vous le dirai pas. En plus, il y a des images d'illustration qui clairement m'envoient vers un ban définitif de cette chaîne. Vous connaissez le rapport à la nudité de la modération subtile de Twitch, même sur des sujets sérieux. Donc voilà, vous irez le lire si ça vous le souhaite. Mais en tout cas, c'est vraiment... c'est très, très détaillé, quoi. J'ai envie de vous lire des passages. C'est très, très détaillé, quoi. C'est très détaillé. Voilà. Donc là, je suis passé devant rapidement. Non, c'est marrant parce que c'est vraiment traité avec beaucoup... Enfin, c'est très naturaliste, quoi. Ça parle de... Les mots sont très... Voilà. Non, mais vous irez voir. C'est pas je, c'est avant là. Une petite phrase, allez. Donc le titre c'est Tous bio, comme partous, tous bio. Déjà, ça régale. Plongé dans une partous gay sans chemsex. Chemsex ou chemsex? Je sais pas comment on dit. Voilà, un petit extrait. Le début de l'article. Chemsex? Je vois qu'il y a des experts. Okay. Début de l'article. Premier sous-sol, des grappes de 3 ou 4 mecs. Non, je peux pas. C'est vraiment. C'est très. Le quatrième ligne, c'est parti. Quoi. Non, je peux pas. Non, c'est trop. C'est les vacances, il y a peut-être des enfants et tout. Quoi. Ah non, mais les enfants, ils écoutent parfois le matin. Non, là, ça y va franchement. Quatrième ligne, c'est BAM! Le Kemsex, c'est un jeu de cartes, exactement. C'est le Kemd. Ou Quems. C'est quelle page? C'est pour un ami? Vous l'aurez aussi dans l'IB. Mais en vrai, l'article est bien écrit et tout. Hein, mais c'est bon, c'est un peu, ça y va, quoi. Kems. Bon, on va rendre un hommage à Ozzy Osbourne ce matin. Papa, c'est quoi une partouze? Voilà, c'est ça le problème. C'est payant, ouais, enfin c'est une entrée, c'est une conso. Hein. Il y a des gens qui veulent vraiment des infos très précises, quoi. C'est genre, ouais, c'est. Il y a. Ouais. Merci, docteur Agori. T'es bien renseigné? Bah, j'ai lu l'article. Hein. Bah, je lis tout, moi. Je lis tout, je ne vous parle pas de tout, parce que je fais un choix. Mais je lis tout après. Ah bah, non, mais l'article est bien écrit, en fait. Je suis curieux de nature. Donc, non, mais est-ce que je vois les payants? Ah oui, ah bah oui, c'est un contenu payant a priori. Et comme le dit Tom Tom, blague à part, quelles que soient vos pratiques ou comme votre orientation, sortez couvert et dépistez-vous régulièrement. Yes, yes, yes. Métal ardent, très joli titre de Libé, très jolie photo pour rendre hommage à Ozzy, monsieur Ozzy Osbourne, fondateur mythique de Black Sabbath, lui-même groupe mythique, le chanteur déglingué a dynamité le rock. Rip Prince of Darkness, c'était effectivement Dagon's, l'un de ses surnoms. Dynamité le rock dans les années 70 avant de poursuivre en solo une carrière de tous les excès jusqu'à devenir une star de la télé-réalité. Il a tout fait. Il est mort mardi à 76 ans. Voilà. John Osborne, j'ai le sentiment que ta vie va prendre un chemin pas banal où tu feras de grandes choses, tu finiras en prison. C'est ce que disait son père. Après quelques verres, il ne s'est pas trompé. À même pas 18 ans, John Michael Osborne, plus connu sous le nom d'Ozzy Osbourne, était derrière les barreaux, arrêté pour cambriolage, retrouvé par la police parce qu'il avait utilisé des gants auxquels il manquait un pouce, laissant ses empreintes partout sur son passage. Champion de la musique, mais pas champion des cambrioleurs. Hein. Né en 48, Ozzy Osbourne a grandi à Aston, au nord-est de Birmingham. Milieu pauvre, ouvrier, pris en étau entre trois sœurs plus âgées et deux jeunes frères dans un capharnaüm incessant, cris, bagarre, alcool, crise à répétition. Le reste du temps, l'école où on est obligé de le traîner littéralement, il déteste ça, ne comprend rien, ne retient rien. À se faire rosser par les gamins qu'il dépasse tous d'une tête et le rebaptise Ozzy, surnom bouffon qui ne le quittera jamais. Seul, répit le vol à l'étalage avec son unique ami Patrick et la musique. Ça, c'est beau, quoi. Un moment que tu vois, rien ne va et à un moment tu trouves quelque chose, tu trouves une voix et la musique. Tous les samedis soirs, ses sœurs se réunissent dans le salon pour chanter leurs morceaux préférés, Chuck Berry, Elvis Presley et les Everly Brothers. On gagne hélas pas sa vie en chantant dans son salon et Ozzy quitte l'école à 15 ans avec deux options, aller s'épuiser sur une chaîne de montage ou braquer une banque. Il tente une formation de plombier sans succès, connaît une expérience malheureuse dans une usine d'assemblage automobile. On lui demande ce qu'il sait faire, il répond qu'il aime bien la musique, on l'envoie accorder les klaxons. C'est bien écrit quand même. C'est bien écrit. Il fait encore quelques mois dans un abattoir avant de se décider à passer cambrioleur. Hein, je pense qu'il est allé voir MVP, l'émission qui parle d'orientation, sur Twitch, et il a changé de métier et il décide de devenir cambrioleur et finit donc en prison. Trois mois à sa sortie, il apprend que son ami Patrick s'est suicidé. Voilà. Ça devait pas être. Il n'y a pas un Patrick dans Bob l'éponge aussi? Bon, bref, celui-ci s'est suicidé. Entre sa découverte des Beatles quelques années plus tôt et cet événement tragique, c'est décider ce que deviendra sa vie. Ah, l'étoile de mer, oui, c'est ça. Comme l'avait dit son père, Ozzy Osbourne allait faire de grandes choses, parcourir le monde, être adulé par les foules, devenir une des figures les plus emblématiques de la musique populaire de ces 50 dernières années. D'abord en mendigo mystique au visage poupon tout en daim, denim ou robe à franges avec Black Sabbath. On a vu un extrait hier dans... Comment s'appelait le titre déjà ? Groupe fondé sur une série de malentendus clownesques avec un hippie caractériel et vaguement mélomane. Geezer Butler, un camarade de classe, passé lui aussi par la prison et les abattoirs. Contraint de jouer de la guitare en accord barré parce qu'il s'est fait arracher le bout des doigts par une presse à métaux. Tommy Yomi, un type à peu près normal, le batteur Bill Wall, paranoïde exactement. Un groupe qui deviendra surtout et contre toute attente un des plus grands noms du heavy metal. On écoutait Paranoid hier. Et sans doute le plus influent, sans eux, pas de doom metal, de sludge, de drone, probablement pas de thrash ni de death non plus ailleurs. Je comprends rien de ce que je suis en train de dire. Black Sabbath a tout eu tout de suite, le son, le style, le feu, la fièvre. 55 ans après sa sortie, la pochette du premier album et son titre d'introduction restent deux des choses les plus authentiquement terrifiantes de toute l'histoire du rock. Le succès commercial aussi. Malgré les critiques assassines de la presse, Paranoid, leur deuxième album, enregistrera des ventes pharaoniques au Royaume-Uni et aux States. Suivons Masters of Reality, puis Les Heures Sombres, les tensions, les sorties de route, l'inévitable chute au printemps 79 aux IPA au mieux avec les trois autres et prié d'aller voir ailleurs. Il est viré du groupe. On le retrouve dans les années 80 en solo, Muppet dégénéré aux mèches peroxydées réclamant son trône avec une paire de disques éclatants, Blizzard of Oz, Diary of a Madman, c'était l'un de ses surnoms je crois. Dynamité par le jeu superlatif du jeune guitariste Randy Rhoads qui mourra en pleine tournée à 25 ans dans un accident d'avion. Deux albums qui vaudront à Ozzy les épisodes les plus crapoteux de sa carrière. En mars 80, il est invité à une convention donnée par son label CBS à Los Angeles pour donner un discours au terme duquel on prévoit un lâcher de colombe. Je connais cette anecdote. Fatigué par l'attente interminable et particulièrement imbibé, Ozzy attrape un des oiseaux et le décapite avec les dents. Oh, on va arrêter de parler de monstruosité. J'ai Solal qui nous rend visite. Solal, viens me voir, viens me voir. Tu aimes mon cœur. Mets ton casque. Qu'est-ce que tu viens nous raconter ? Qu'est-ce que tu viens nous raconter ?
On va bientôt y aller.
Tu vas où ?
Bientôt à la plage.
Oh, piscine et matin plage. Tu seras prudent ?
Oui.
Tu feras attention ? Parce que la mer, c'est plus dangereux que la piscine. Hein. Les vagues, elles peuvent t'emmener. Donc, c'est pas parce que tu nages très bien. Il faut toujours rester à côté d'un adulte. Et pas trop... Faut pas toucher le micro. Et faut pas trop t'éloigner du bord. Tu me promets de faire attention ? Toujours rester avec un adulte ? Parce que tu nages bien, mais quand même. Hein ? La mer, ça peut être dangereux. Voilà. T'as mangé déjà ? Maintenant, tu vas manger et après la mer ? Ou la mer et après manger ?
Je pense la mer et après manger.
Ok, mon cœur. C'est top.
Et c'était moins le rouge.
Hein, quoi ?
C'était moins le rouge.
Oui. Là, effectivement, sur la petite scène que tu vois, ça, c'était l'ancien studio de papa à la maison, quand je stream à la maison. Le grand avec les cheveux gris, là. J'avais des cheveux à l'époque, c'est papa en bleu. En rouge, c'est toi. En bleu, c'est Malo. Et en jaune, c'est pas notre troisième enfant, c'est...
Mon doudou.
C'est qui ?
Mon doudou.
C'est ton doudou. Et c'est Pikachu, je pense.
Oui.
C'est Pikachu. Mais ouais, c'était toi. T'étais grand déjà. Mais t'es encore plus grand maintenant.
Pourquoi on a fait ça ?
Pourquoi on a fait ça ? Pourquoi on a fait le dessin là ? Parce que quand les enfants viennent, on met cette scène comme ça, on ne te voit pas. Tu vois, on peut pas te voir parce que c'est important de ne pas montrer les enfants à la caméra pour les protéger leur vie privée, leur image. Quand tu seras adulte, tu pourras décider de t'exposer ou pas. Ça, ce sera une décision d'adulte, mais on ne peut pas décider à ta place. Les enfants les protègent. Parce qu'en fait, faut que personne ne t'embête. Parce que c'est pas toi qui choisis d'être là, quoi. Tu vois ? C'est pour ça.
Pourquoi on avait dansé comme ça ?
Pourquoi on a fait une petite danse comme ça ? Bah, c'est parce que la personne qui a fait cette animation s'est dit que ce serait sympa de faire une espèce de petite danse, une petite fête. Comme papa est un danseur hors pair et qui va sans doute gagner Danse avec les Stars un jour. Voilà, c'est une petite choré, c'est une petite bourrée auvergnate, là. Voilà. Voilà, avec un petit tour sur soi-même, voilà ce qu'on appelle la bourrée quart de temps, hein, dans le monde de la danse. Voilà. Et derrière, tu as vu comment tu dansais très bien ?
Oui.
Et hop, tu regardes comment tu mets notre ami Pikachu là, hop, en haut, tu vois ? Bravo, hein. Très bon mouvement. Mon cœur. Bon, bah, bon appétit. Bonne mer. Il est là, Solal. Il est là, il vient me raconter qu'il s'en va. Tu me fais un câlin ?
Quoi ?
Ah non, quelle tortue ? Quoi ?
Au hamac.
Au hamac, là-bas, il y a une tortue ?
Oui, dans les buissons.
T'as vu une tortue dans les buissons ?
Oui.
Une tortue de terre ?
C'était une tortue de terre, maman.
Elle nageait ?
Non.
Et se promenait ? C'était caché ?
Voyez un peu sa tête.
Et est-ce que vous lui avez donné de la salade ?
Non.
Ça... Hein ? Faut laisser tranquille. Très, très bon réflexe. Faut pas l'embêter, effectivement. Bon, il est venu me raconter. Ça, c'est le retour du. C'est le niveau de retour. Ça, c'est ton micro. Là, tu le coupes. Là, tu le montes. Ça, c'est le micro de papa.
Si, je le mets au milieu.
Ben, on va t'entendre moins fort et comme tu as une toute petite voix, on t'entendra plus. Pas de laitue pour les tortues. Les toxines présentes dans la plante peuvent tuer la bête. Oh, moi, j'en ai plein de laitue à mes tortues quand j'étais petit. J'étais heureuse. Hein. Et elles ont vécu longtemps. Hein. Bon, bonne plage, mon cœur. Ça, c'est mon micro à moi. Espèce de petit streamer, va. Amuse-toi bien. Hein?
Quoi? Il avait baissé pour te dire oui. La réponse.
C'est ça. Il avait... Eh oui, toi aussi, tu pourras le faire si tu veux. Et vous allez prendre la voiture?
Oui.
N'oublie pas de demander à maman si tu peux t'appuyer sur le klaxon.
Oui.
Ça fait plaisir, ça. Ah oui, il faut que les klaxons, ouais, un petit coup. Un petit coup, oui. Papa, il a dit ok. Un petit coup, hein. Maman n'était pas trop d'accord, mais bon, on aura klaxonné un petit coup, non? Hein? Bon, on en était où? Ah oui, Ozzy Osbourne. Un petit coup de klaxon, ça le met en joie. Les enfants, ils ont des joies simples, hein. Alors, Ozzy Osbourne. Donc, voilà. Lâcher de colombe, il chope une colombe, il lui arrache la tête. Bon. Premier épisode crapoteux. 2 ans plus tard, le 20 janvier 82, lors d'un concert des moines dans l'Iowa, un fan jette sur lui une chauve-souris. Croyant, je connais l'histoire, qu'il s'agit d'un jouet, Ozzy lui croque la tête. L'animal était tout ce qu'il y a de plus vrai et le chanteur devrait être conduit presto aux urgences pour se faire vacciner contre la rage. D'après l'histoire qui semble vraie, il vient pas avec une chauve-souris pour faire peur aux gens et la bouffer. On lui jette la chauve-souris, il pense que c'est un jouet, genre en caoutchouc, et il lui arrache la tête. Mais ça n'est pas un jouet. Ok. Sacré Ozzy ! Sacré Ozzy ! S'ouvre une période peu glorieuse où, victime de ses excès à répétition, il vire à la caricature et se met en partie animal, hébété, dégaine de ce vieil oncle célibataire, sans cesse en train de se remettre de la cuite de la veille. Genre de Rod Stewart pété au coin trop, boursouflé, hilar, look torse nu, chaîne dorée, slip panthère. J'adore. J'adore, quoi. Cette période, il ne se souvenait plus de rien ou presque, et au journaliste qui lui demandait s'il avait réellement sniffé une colonie de fourmis, comme le prétendaient les membres de Motley Crue dans Dirt, il répondait: j'en ai aucune idée, c'est tout à fait possible. Ce mec. Wouhou! Ressuscité en 91, sain, confiant, triomphal, adulte presque, il signera un des sommets de sa carrière discographique, No More Tears, un des derniers grands disques heavy metal de l'époque avant que le grunge, cette musique qui ironie doit tout presque à Black Sabbath, c'est ce que disait Kurt Cobain notamment, ne vienne redistribuer les cartes en 92. Beaucoup ne découvriront le personnage qu'au début des années 2000 finalement, ricanant comme un perdu, comme un vieillard qui cherche ses lunettes dans l'émission de télé-réalité The Osbournes, diffusé entre 2002 et 2005 sur MTV, qui a été un énorme succès de télé-réalité. Il est mis en scène sur son canapé, perdu au milieu d'une famille braillarde et anarchique, liquide, presque transparent, mélange de Willy Wonka sous benzodiazépine et de Grandpa Simpson des ténèbres. Attends, l'article est une masterclass. Qui écrit ça? Lelo Jimmy Battista. C'est excellent, c'est excellent. C'est là, dans ces 52 épisodes éreintants, qu'on voit parfois le vrai Ozzy Osbourne, cette rockstar hors norme des années 70 et 80, qui, contrairement à ses pairs, n'était ni un playboy, ni icône, ni homme d'affaires, ni même particulièrement ambitieux. Il lui était arrivé mieux une histoire d'amour. En 79, alors qu'il vient de se faire virer de Black Sabbath et que son premier mariage s'effondre, Ozzy Osbourne est pris en main par Jet Records, label anglais, qui le loge tout frais payé au parc hôtel de luxe de West Hollywood. C'est très rock, ça. Ozzy se terre dans la chambre où il passe l'essentiel de ses journées à s'assommer avec tout ce qui lui passe entre les mains. Frappe un jour à sa porte Mark Nosif, batteur de session qui a joué avec tout le monde. Également logé dans le même hôtel, Nosif doit s'absenter, demande à Ozzy s'il peut remettre de sa part une enveloppe à une employée du label qui va passer la chercher. L'amour ! L'amour, mesdames et messieurs ! Quelques heures plus tard, Ozzy Osbourne se retrouve face à Sharon Levy, la fille de Don Arden, qui débarque dans sa chambre alors qu'il est en train de piquer du nez au-dessus d'une montagne de cocaïne. Putain. Vexée par son attitude, elle revient le voir le lendemain pour obtenir des excuses et le trouve en train de fumer un joint vautré dans son urine. La belle rencontre. La belle rencontre. Le romantisme. Elle le jette à travers la pièce, le couvre d'injures, lui met une secousse à vie. Ils tombent amoureux quelques semaines plus tard, en tournée après s'être découvert une vie et des parcours similaires. Du côté paternel essentiellement, celui de Sharon ayant dès son plus jeune âge développé une relation compliquée avec l'alcool, la drogue et les armes à feu. Plus que l'épouse de Guy Osborne, Sharon deviendra aussi sa manageuse, femme d'affaires redoutable qui le remettra en selle et gérera sa fortune, développant notamment au mi-temps des années 80, c'est un festival à son nom. Le Oz Fest en réponse à Lollapalooza, grand messe alternative qui refusait de programmer Ozzy parce qu'il n'était pas assez cool et véhiculait une image malsaine. Couple indéfectible, Ozzy et Sharon Osbourne seront à la fois exception et cliché, ménage infréquentable et duo de contes de fées passés par l'infidélité, les addictions et pas très loin du meurtre aussi. En septembre 89, Ozzy Osbourne, sévèrement intoxiqué, entend des voix et tente d'étrangler son épouse. Mais sans piternellement rabibocher, en 2007, ils passent même un pacte pour recourir ensemble au suicide assisté en Suisse si jamais ils étaient atteints tous deux d'une maladie dégénérative. Ensemble, ils auront trois enfants, Jack, Kelly et Amy, auxquels viendront s'ajouter Jessica et Louis, issus du précédent mariage d'Ozzy, ainsi que son fils adoptif, Elliot. La drogue, c'est mal quand même. Hein. En juillet, le chanteur avait quitté la scène après un dernier concert à Birmingham, choix décidé après avoir traversé entre 2019 et 2024 ce qu'il décrivait comme la pire période de sa vie, cette année durant laquelle il a été diagnostiqué de la maladie de Parkinson et a survécu à deux pneumonies puis septicémie. J'ai vécu sur la route pendant 50 ans, déclarait-il, et il est temps pour moi de passer du temps avec mes petits-enfants, je ne veux pas mourir dans une chambre d'hôtel, je veux passer les jours qu'il me reste avec ma famille. C'est beau. De tous les titres d'Ozzy Osbourne, s'il n'en fallait qu'un pour le résumer de la manière la plus précise, la plus fidèle, beaucoup choisiraient instinctivement War Pigs, Iron Man ou Crazy Train. Mais la réponse la plus juste serait sans doute à chercher plus loin dans Down to Earth, paru en 2001. Titre facile, plein de sucre à la limite de la guimauve. Ozzy Osbourne, qui avait toute l'attitude et légitimité pour y ajouter déviance ou dérision, le chantait pourtant sans la moindre ironie, le plus sincèrement du monde, parce que cette chanson, c'était lui, derrière le stoner luciférien, le prince morbide, le clown vampire aux fraises. Il était resté ce gamin des quartiers pauvres de Birmingham qui n'était pas bien doué avec la réalité et rêvassait sa vie, le talent, la gloire, les voyages à travers le monde, l'amour aussi. Tous ses rêves ont fini par se réaliser et tous semblaient pourtant toujours l'effrayer. De toutes les grandes figures du heavy metal, le prince des ténèbres était le seul qui ne chantait pas la puissance mais la vulnérabilité. Ozzy Osbourne est mort mardi. Il avait 76 ans. Moi, je pense qu'il faut applaudir cet article. Voilà. Que j'avais pas lu ce matin. J'avais juste vu qu'il y avait deux pages dans Libération de Lelo Jimmy Battista. Voilà. Quand le journalisme prend cette forme, c'est magnifique, c'est beau. Il y a du talent, il y a de l'amour, il y a de la recherche, il y a de l'humour. C'est magnifique. C'est magnifique. On a écouté donc comment s'appelait le titre qu'on a écouté hier? C'était Android, non, pas Android. Panaroid. Paranoid. Paranoid. Qu'est-ce que vous voulez qu'on écoute? Aujourd'hui, pour célébrer la mémoire de notre ami Ozzy Osbourne. War Pigs, Iron Man. War Pigs revient beaucoup. Un petit War Pigs, un petit War Pigs, hein, un petit Crazy Train. Wow, let's go. On peut peut-être écouter les deux. YouTube, War Pigs, War Pigs. On va pas tout écouter, hein. War Pigs, Black Sabbath. Live vidéo il y a 7 ans. 10 ans. War Pigs. Ah là, j'ai un live qui semble un peu vieux, là. 1970. À l'Olympia en France, mesdames et messieurs. C'est juste... Waouh, 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 on a un truc à l'Olympia en France, 1970, War Pigs. What? Wouh! We'll be right back.
1970,
vous vous rendez compte ? En 70, ce son. Le contexte de l'époque, c'est pas ce style de musique. La Black Sabbath invente un nouveau style, c'est incroyable en vrai. Nous rappelle Métis, on est à l'Olympia en 1970, c'est fou quoi. Ok, et vous me parlez d'un autre titre. Tout à l'heure. Crazy Train, vous êtes beaucoup à me parler de Crazy Train. Ok, let's go. Crazy Train. Osborne. Ça, c'est du solo. C'est du Black Sabbath, toujours. Live. J'ai un live qui a l'air pas mal. J'ai un live ici, là. Ouais, qui a l'air bien fou aussi. Crazy Train. Ok. Alors, pas mal ça. Ça, c'est une pub. Je vous la zappe dans un instant. Let's go. Crazy Train. Excellent. Voilà. Alors, il faut se souvenir du contexte de l'époque. Hein. C'est comme des gens qui inventent un style musical. C'est pour ça qu'il faut que la Cape Rouge qui vient de nous écrire, c'est sympa, mais ça fait un peu musique de bobo écolo, recontextualise un petit peu son propos. Voilà. C'est juste énorme pour l'époque. Ils ont juste inventé tout un truc, tout un monde musical, quoi. Incroyable. Pourquoi ils sont torse nu ? Bah parce qu'ils ont chaud. Hein. Moi aussi, je suis torse nu quand j'ai chaud. Hein. Là, j'ai pas chaud, par exemple. Mais le soir, quand je cours dans mon petit sentier corse, ce soir, il y aura footing. On est torse poil. On est torse poil. On est comme Ozzy Osbourne. Un peu avec les mêmes tatouages, d'ailleurs. Bon, on va inviter la Cape Rouge à réécouter tout l'article de Libération qu'on vient de lire. Parce que là, la Cape Rouge est en train de nous poser des questions auxquelles on vient de répondre. Voilà. Je pense que la Cape Rouge vient d'arriver ou sort d'une petite siestoune. Pour évacuer les toxines, exactement. Les amis, petit stream ce matin de 3 heures. Je trouve ça injuste que les mecs puissent se balader torse nu et que les filles soient mal vues. Pourquoi est-ce que les mecs devraient se balader torse nu ? C'est un vrai débat, ça. C'est un vrai débat. On va songer à lancer ce débat. C'est un vrai débat. C'est une petite pause, une toute petite pause d'une demi-heure, je pense. Puisqu'on relance le stream dans une demi-heure, un stream de gaming, on va essayer de pousser dans ses retranchements ce PC portable, la petite OP là, sur 2 jours. On a fait du unboxing hier. J'ai tout setup hier après-midi. 3-4 heures dessus là. Voilà, son, image, scène, OBS, Twitch, tout, téléchargement de jeu. Et donc là, d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, je relance avec Death Stranding, jeu assez lourd pour faire tourner le PC. Pff, ça marche pas, on lancera un petit ballot. Death Stranding dont vous m'avez parlé hier, qui est a priori un banger. On se retrouve dans une demi-heure, 3/4 d'heure. J'ai promis tout à l'heure un raid à quelqu'un qui a dépensé ses points de chaîne, l'ami Brocoline. Allons voir si la personne est toujours en live pour faire ce raid. J'ai noté le pseudo ici. Oui, la personne est toujours en live. Moi aussi, je vous aime. Broco, ton ami est là, est en live. On est sur du Valo. Ok. Je ne la suis pas encore, donc ce serait mon premier raid. 32 viewers sur la chaîne de Low. L-A-U-U Gaming. C'est parti. Je charge le raid. Ici, on met en lumière le travail des autres streamers et streameuses. C'est important aussi de donner la force aux autres. Ici, Low, peut-être Laurence, Low, je ne sais pas. Voilà. Donc, on va voir Low Gaming. On est sur du Valo. Solo queue, objectif silver. Ah bah ça c'est mon rêve ça. C'est parti. Je charge le raid, je lance le raid et je vous retrouve dans une demi-heure, 3/4 d'heure pour un petit stream de test de PC et surtout de découverte d'un nouveau jeu. Prenez soin de vous bande de beaux gosses. Merci pour ce matin, pour la force que vous donnez aux streamers et aux streameuses. C'est grâce à vous qu'on est là. A tout de suite bande de belles personnes et merci pour ce matin. Et il y aura aussi une revue de presse demain matin vers 9h-9h30. C'est parti, let's go. Merci encore pour ce matin.
Mais quoi? Oh non, Broco, t'as pas fait ça. Ah, je vais bien. Coucou tout le monde. Ah non, les gars, mais je peux pas vous suivre, là. Merci beaucoup pour les follow. Coucou Samuel Etienne, merci beaucoup. Carrément, le GOAT me follow, mais c'est une dinguerie. Coucou tout le monde, merci beaucoup. Merci Samuel Etienne pour le raid. Merci. Je sais même pas si ton message il est passé tellement que je vois pas. Merci beaucoup. Putain, attendez, je me mets dans un coin parce que... Coucou tout le monde, merci beaucoup. C'est grâce à Brocoline, mais je m'en doutais. Mais meuf, mais t'es juste complètement tarée. Je t'aime d'amour. Bienvenue tout le monde. Enchantée.